À tous ceux qui tentent de résoudre le mystère de la chaussette disparue. Un témoin affirme vous avoir vu hier avec deux chaussettes à rayures. Aujourd'hui, aucune trace de la chaussette gauche. J'espère que vous avez un bon alibi. En ce moment, Intermarché offre 80% en avantage carte sur les 38 capsules de lessive Skip Ultimate Trio Active Clean, soit seulement 2,90€ avantage carte déduit. Et ça aussi, c'est dans l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 9 juillet, 14,50€ prix payé, 806 grammes, soit 17,99€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous êtes recherché par la moitié des acteurs de Cannes qui vous envolent, je vous le dis.
Des acteurs à Cannes.
Oui, il y a des acteurs à Cannes et ils vous envolent énormément. Pourquoi? Parce que vous dites trop de mal du cinéma français.
Mais voilà. Non, c'est super.
Même Tom Cruise, quand il est arrivé à Cannes.
Vous savez qu'il est pédé?
Il y a une rumeur.
C'est son mec qui me l'a dit.
Mais attends, mais cette rumeur, elle existe depuis Top Gun il y a 30 ans.
Top Gun, c'est un film de terreau, tu trouves?
Alors moi, comme j'étais, je sais pas moi, jeune fille, je sais pas moi quel âge, 15 ans, 14 ans, je sais pas quand j'ai vu ces films.
42.
Non, ben là, je serais morte, ça, je n'y arriverais plus.
C'est vraiment toute démenteuse.
Attends, j'étais un enfant, c'est ton coup.
Déjà qu'on sait même pas si c'est une femme.
Non mais c'est génial, Top Gun, et puis la forme qu'il a quand même.
Il est déjà reparti, il faut dire. Hein.
C'est-à-dire
hier soir, il a pris son... on lui a remis une palme d'honneur, et il a quitté le bâtiment, comme on disait, Elvis... has left the building, c'est-à-dire que dès que
le concert... Oh
là là. Dès que le concert a été fini...
Elle parle tout le temps de ses ex. Non. Ça n'arrête pas.
Oh, j'aurais bien aimé, j'adorais.
Patrick Topalov et Elvis Presley.
Patrick Topalov a fait une reprise d'une chanson.
Johnny B. Good.
Et oui,
Ali B. Good.
On peut parler de Tom Cruise.
Oh, ça va.
Et Ali B. Good, il a gagné beaucoup d'argent. Ali B. Good, il en a plus que la moitié de ses dents. Ali, sors-moi le Topalov.
Non, non, non.
Il paraît que dans l'intimité, il disait Julie Bigoud.
Donc, c'est pas Gilles de la Tom Cruise, il a reçu sa récompense hier. Il a quitté le bâtiment. He left the building.
Mais voilà. Oui, ben, les gens normaux partent en taxi, lui, il part en hélicoptère.
Non, mais il est même pas resté à Cannes, quoi. Cannes lui rend hommage, il est déjà parti. Il s'en fout, quoi.
Bah, oui, c'est pas qu'il s'en fout, il doit être archibouqué.
Bah ouais, chérie, Tom Cruise, il a pas que ça à foutre, hein. Tu crois dans l'arcane de recevoir des palmes d'or de merde?
Alors,
c'est Tom ou quoi?
Non, mais attends, je suis venue.
Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans le Loir-et-Cher, elle lui fait croire quoi, elle?
Attends, excuse-moi.
Non, mais c'est quoi ce personnage improbable?
Non, j'ai rien à dire aujourd'hui.
Mais pourquoi?
Peut-être m'engueule que je dis rien.
Mais non.
Alors, quand je vais dire, ben, les gens, mais je suis, je sais pas, bois de Boulogne, machin,
Ah non, vous n'êtes pas venu ici pour étaler votre CV. Ça y est, on a retrouvé.
Ah, Ali B. Good.
Ali B. Good.
Allez, Julie, dans. Ali B. Good, il a gagné beaucoup d'argent. L'argent, j'ai dans sa bouche plus de la moitié. C'est bon. Et fume les cigarettes avec des bouts dorés. Les portes de la marche avec les bas patrés. Les blues des rock'n'roll, la clique qui tire le connaît. C'est lui, Ali Presley.
Allez, go, go. Et c'est pour vous,
ça,
Julie.
Alors, Julie, go, go. Julie, c'est ce mec que t'as pompé? Mais non, mais prends-moi un bébé à des forbans, je sais pas. Un niveau au-dessus, quand même.
Arrêtez de faire de cette histoire la plus belle histoire de ma vie, enfin, quoi.
Mais non, mais c'est
avec Pierre Ménès. Avec Pierre Ménès.
Alors que sa plus belle histoire d'amour, c'est vous, mais.
Oh, exactement.
Bravo.
Une première citation pour Nathalie Siméon, donc qui habite la rivière Saint-Sauveur.
Oui. Saint-Sauveur. En fait, c'est pas ce qui parle comme Karl Lagerfeld. C'est vrai qu'elle a. Mais qu'est-ce que c'est que ces t-shirts absolument informes, Monsieur Ruquier? Ça ne va pas du tout. Vous vous habillez comme une grosse plouque. On dirait une sorte de touriste du camping.
Je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais.
Remarquez la première citation, au moins ça va aller vite. Qui a dit un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse pas une femme, mais une femme découpée en morceaux, ça intéresse les journaux.
Ça, c'est drôle.
Coluche, bonne réponse de Monsieur Toen, ça c'est fait. Une citation plus littéraire pour Madame Nadine Courtois, qui habite Cadillac, dans l'Ille-et-Vilaine. Nadine Courtois.
Courtois,
qui a dit,
c'est féminin.
L'homme aime tant l'homme que quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, c'est-à-dire pour refaire la ville à la campagne. Oulala.
Yannick Jadot.
Non.
Albert Camus.
Non.
Mais c'est assez juste.
Est-ce que c'est plus ancien
que récent, non?
Lévi-Strauss.
On est au 19e siècle.
Ah oui, déjà.
Ah,
c'est une pensée moderne.
Jean-Pierre Foucault.
Non.
Est-ce que c'est un écrivain?
Marc Lévy.
Lamartine.
Alors, Lamartine.
La Josiane.
La Maureen, non?
Est-ce que c'est un dramaturge?
Dramaturge, non.
Un philosophe.
Un philosophe. Un de nos plus grands poètes.
Victor Hugo.
Non.
Baudelaire.
Charles Baudelaire. Bonne réponse de Yann Moix. Une question pour Danny Briand. Oh bah tiens, c'est marrant. Tiens,
ah bon,
ben, mais c'est pas le même.
Hein. Trop
il a cette besoin de 300 euros.
Hein. Lui, il habite Pruil-le-Chétif dans la Sarthe.
Oh, le pauvre petit.
Vous connaissez Pruil-le-Chétif?
Oui, il est bien gros.
La question...
C'est pas Pruil, c'est Pruillé.
Pruil-le-Chétif, Danny Briand espère toucher 300 euros. J'ai bien peur que, vu le niveau culturel de cette équipe, hélas, le chèque RTL ne quitte pas la station. De qui Cacambo était-il le célèbre valet?
Cacambo était le valet...
Cacambo était le valet d'un des quatre mousquetaires.
Du tout.
Non.
Alors, c'est cinématographique.
C'est un personnage de roman?
Un personnage de roman, oui.
Roman du 19e?
De roman français, oui.
19e siècle?
19e, non.
Bien avant.
Un petit peu avant, oui.
18e,
du coup. De qui Cacambo, 18e, oui, était-il le célèbre valet? Okay. Un des plus grands succès littéraires français, d'ailleurs.
Ah oui,
ah oui.
Et du 18e.
Du 18e.
C'était un personnage de Chauderlos de Laclos?
Non, monsieur, c'est bien ça. Vous pensez aux liaisons dangereuses.
C'est du Voltaire?
C'est du Voltaire.
Zadig.
Alors, non.
De Candide?
C'est le valet de Candide, Cacambo. Bonne réponse collective, hein, on va dire, parce que là, pour le coup. Ça n'est pas venu directement. Hein,
bah oui, une fois qu'on avait épuisé Zadig, quand on veut sur Candide. Ça.
Alors, on va voir si vraiment vous connaissez bien Candide, parce que je vous ai donné le nom du valet de Candide et le nom du professeur et grand philosophe...
Pangloss.
Pangloss.
Pangloss. Bravo, monsieur...
Pangloss.
Oui, c'est monsieur Gazan qui a failli dire une connerie en disant Pangloss, mais c'est Pangloss. Bravo, Péroni. On essaye encore maintenant. La fiancée de Candide...
Cunégonde.
Cunégonde. Bravo. Oh là là! Et le nom du baron et de la baronne?
Ah,
Von den Tronk. Von den,
ouais.
Comment?
Von den Tronk.
Pas Von den Tronk.
Von den Tronk.
Non.
Trump. Ah merde, Van den
bon, Donald Trump. C'était pas ma question donc.
Oui, mais c'est.
C'est des questions subsidiaires. Tundendronk. Voilà. Candide ou l'optimiste.
Oui, c'est ça, je pensais que vous alliez demander les sous-titres.
Eh bien, oui, c'est sorti en 1759 et ça a été un des plus grands succès littéraires français. Et quand même, bravo à Péroni et aux autres. Vous connaissez bien la littérature. Une question pour Marie-Lise Moreau, qui habite Somain, dans le Nord. Quel curieux surnom César avait-il donné à Cléopâtre?
La salope?
Oh, pas loin. Ah.
La cochonne.
La cochonne. Non.
La coquille.
La catin.
Non.
C'est la plutôt catin. Vulgaire.
Alors, vulgaire, le surnom ne l'est pas, mais le fait qu'on lui attribue ce surnom, évidemment, est
la
un peu
prostituée.
Salace.
La catin.
Non.
La
sorcière.
La solière.
Non, c'est un surnom en deux mots.
L'allume-cigare.
Non.
Mais c'est quelque chose qu'on utilise pendant l'acte?
Comment ça?
Est-ce que ça serait un surnom qu'on peut utiliser pendant l'acte?
Comme quoi, par exemple?
Elle avait
la vagine.
Cléopâtre avait une sacrée réputation. D'ailleurs, elle a couché avec César dès le premier soir de leur rencontre.
Cachée dans un tapis.
Voilà. Et elle avait.
C'est pas la seule non plus. Hein.
Elle avait une vraie réputation, Cléopâtre.
Lui aussi, parce qu'il était d'accord pour coucher avec elle.
Oui, mais c'est vrai, mais elle a fait quelque chose de plus étonnant encore que ça, quand je vais vous le dire.
La mouilleuse.
Ce qui lui vaut. Évidemment, ce surnom de la part.
La mouillette!
De la part de César.
La mouillette, la trompette.
César
la parfumée.
La parfumée, non.
La torche humaine.
Non, mais non.
C'est une comparaison avec un objet?
Non, c'est lié à une, on va dire, une de ses facultés.
La gourmande?
La suceuse impériale.
La
en tout cas, on a trouvé le thème.
La gourmande, la plaisir.
La gobeuse? mais plus jolie que ça.
C'est joli la coteuse.
Taille crayon, s'il te plaît.
En
deux mots, en deux mots.
Taille plume ?
Non, en deux.
La paille.
Ah, l'avale tout.
Trois.
L'essuie tout. La féline.
Trois mots, enfin trois mots si on compte le D apostrophe.
Voilà.
Elle aurait exercé ses talents en une seule nuit sur 100 nobles romains. Sans fellation.
Ça paraît trop. Ah, je veux vous dire qu'elle s'écroche la mâchoire, la petite.
La langue.
C'est dans les livres d'histoire.
Non,
monsieur,
je m'étonne.
Monsieur
non,
Ferrand.
Et à la fin, elle dit, il y a personne qui me fait un petit bisou.
Dyson, non.
Il n'y a pas langue dedans, la langue de quelqu'un.
Langue, non, mais on se rapproche.
La bouche.
Bouche.
La bouche de l'enfer.
La bouche
ouverte. La bouche de l'enfer.
La bouche d'extrême.
La bouche du paradis.
La bouche d'égout.
La bouche d'or. La
bouche d'or. Bonne réponse de Karine Le Marchand.
Moi, j'ai trouvé la bouche. Hein.
Bouche d'or et cul d'argent aux yeux du cœur.
Mais c'est vrai qu'elle paraît qu'elle n'est pas allée au bout des 100, alors, pour dire la vérité.
À 99, elle dit, j'arrête, on peut plus.
Il y a une histoire qui raconte qu'effectivement, elle en a, voilà, elle a fait une gâterie à un garde, puis une deuxième gâterie, une troisième, dixième gâterie.
J'étais où,
moi ? Douzième gâterie, treizième gâterie, quinzième gâterie, vingt. 20e gâterie, 30e, 40e, 90e gâterie et la 92e gâterie. Tellement malin, on ne pouvait plus, elle s'est écroulée. Et là, il y a quelqu'un qui a crié « Lesbienne !» Vous ne saviez pas ça de Cléopâtre ?
Non, parce que je savais plein de choses de Cléopâtre, ouais. Et notamment qu'on a retrouvé sa momie, vous savez, il y a quelques années, et qu'elle n'était pas si belle qu'on en avait l'air.
Ah bon ?
Elle était assez petite, assez grosse, enfin, c'était enfin, pas du tout
l'image. Quand on est en momie, on est quand même moins jolie, hein, quand même. Hein.
On est un
moi,
peu
j'ai vu Ramsès
hein,
II, franchement, oui. Il ressemblait à Giscard d'Estaing pendant un moment.
Il n'était pas grand, de toute façon, à cette époque.
Une histoire, monsieur Bigard ?
Eh bien, c'est une blonde, tout simplement, qui arrive chez son médecin. Elle est un petit peu en colère. Elle dit, docteur, il paraît que j'ai que 22 de QI. Je ne comprends pas. Et le médecin dit, c'est normal, quand on n'a que 22, on ne comprend pas.
Pour Ludovic Moreau, qui habite Saint-Herblain, une question devinette. Plus il est poli, moins on a de son. De quoi s'agit-il ?
C'est un instrument de musique ?
Non.
Le son, c'est la céréale ou la musique ?
Voilà une bonne question, monsieur Gazan, à votre avis.
Je comprends pas cette question.
La céréale. C'est une céréale.
C'est du seigle.
Et on parle de polir ou de politesse ?
Ah, on parle de polir, évidemment, monsieur Bigard. Plus il est poli, moins on a de son. De quoi s'agit-il ?
Donc on cherche genre du maïs, des trucs comme ça. Hein.
Voilà.
Oui, ouais. D'accord.
Mais c'est pas du maïs.
C'est
en
ça.
En fait, il faut savoir d'où vient le son.
C'est pas du blé. C'est pas du blé.
Le son, on s'en débarrasse.
Oui. Donc le blé,
le seigle ?
Non. Le blé, non.
Le seigle ?
Le seigle, non.
L'orge ?
L'orge, non.
Les lentilles. L'avoine.
Qu'est-ce qu'on peut polir ?
L'avoine.
Pour avoir moins de son. L'avoine, non.
Bah, si on polit, c'est que c'est quand même un petit peu épais, donc c'est une branche, c'est un arbre.
Non, c'est pas si épais que ça, et croyez-moi, en plus, on le fait pour que ce soit parfait, on le fait à la main.
Le roseau ?
L'asperge.
Le roseau,
pardon ?
L'asperge.
Vous faites polir l'asperge à la main.
Je me fais souvent polir mon asperge. Il y a pas mal de sons, d'ailleurs.
Monsieur Plaza.
Le roseau ?
Le roseau, non.
Le bambou ?
Le bambou, non.
C'est comme c'est ce genre de choses ?
Mais ça se mange ?
Alors, au départ, ça se mange, mais ce qu'on va obtenir en polissant ce qu'on cherche et en le débarrassant de son son, hein, ouais. Pas facile à dire, tout ça.
Ce sera quoi alors ?
Eh bien,
un épi.
Un épi, non.
L'osier ?
Non. Et non, ça ne se mange pas, ça se boit, pour tout vous dire.
Ah,
la
canne à sucre.
La canne à sucre, non.
Mais je suis pas loin.
Non.
Ça se boit en apéro ?
Non.
La banane ?
C'est un digestif plutôt.
Ah, pardon ?
Le saké. C'est un digestif plutôt.
Et donc qu'est-ce qu'on polie ?
Le riz.
Le riz. Bonne réponse de Franck Ferrand et Karine Le Marchand. En effet, on polie le riz pour le débarrasser du son et obtenir du saké. Oh. C'est une excellente réponse de Franck Ferrand et Karine Le Marchand. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Zadda ?
On polie le riz.
Oui, on polie le riz, oui, ouais. Absolument. Le riz est poli pour le débarrasser du son, des graisses, de l'albumine, jusqu'à ne laisser que le cœur du grain qu'on appelle shinpaku, riche en amidon. Ah. Et c'est ce pourcentage qui exprime le résidu, qui varie évidemment d'un type de saké à l'autre. On va, plus on le polie, plus on va avoir...
C'est le son du riz, en fait.
Le son du riz.
La prochaine fois que je vais au chinois, je vais qu'il décortique les grains de riz devant moi.
Et un par un.
Et un par un. Ça prendra le temps que ça prendra.
Ah, oui. Kampé, c'est ce qu'on dit quand on boit un coup de saké.
Qu'est-ce qu'on dit quand on...
Kampé, ça veut dire santé en japonais.
Ah, bah, vous parlez japonais aussi.
Bah non, mais j'étais un peu au Japon, donc je sais comment on dit. Quoi.
Ah, très bien. Okay.
Ouais, moi, je parle allemand, moi, prosit.
Voilà.
Moi, je parle la flelou, chin-chin. En tout cas, c'était bien le riz et le saké. Excellente réponse. Une question pour René Martin qui habite Marseille. Si je vous dis que ces phrases sont signées Jean Schmitt, pouvez-vous me dire d'où elles sont extraites ? Je vous donne les phrases en question. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux.
C'est une chanson.
C'est une chanson.
Bah oui.
De Claude François.
Pas du tout.
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday non plus.
Dites les...
Mais bien sûr, parole de Jean Schmitt, je vous donne les quatre vers en question. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux.
Ah, Gérard Lenormand.
Non.
Non. Christine. Michel Delpech.
Michel Delpech, non.
Vous avez l'air.
Michel l'air. L'air de quoi vous voulez? Si c'est l'air de la chanson, je ne vais pas vous le donner.
L'interprète. Stone
et Chardin. Non.
C'est un chanteur des années 70.
Balavoine.
Eddie Mitchell.
Non, non.
Dans ce monde.
De toute façon, c'est pas le chanteur ou la chanteuse qu'il faut trouver, c'est la chanson.
C'est la chanson.
La Marseillaise.
Près de la Marseillaise. On va essayer. On va essayer. On va voir si ça colle. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux.
Je la connais cette chanson. Alors, est-ce que l'interprète habituel est décédé ? Non !
Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui vit encore aujourd'hui.
Cette chanson-là, elle est sortie il y a peu de temps.
Pierre Perret, non.
C'est un homme d'interprète. Redis les paroles, je la connais.
Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux.
Morane.
Morane, pas du tout.
Non,
dans ce monde. La chanson date de 1971.
Mais oui, dans ce monde.
Est-ce que c'est une adaptation d'une chanson étrangère ?
Oui, c'est l'adaptation d'une chanson étrangère.
C'est pas Johnny.
C'est pas Johnny.
C'est un standard anglais ou américain ?
Un standard américain au départ, mais c'est devenu un gros succès en France, qui n'a rien à voir, évidemment, avec
Paul
la
Nareff.
Chanson originale. C'est pas Paul Nareff.
Il y a un rapport avec l'Eurovision ? Elle a été jouée quelque part, cette chanson ?
Du tout avec l'Eurovision, aucun rapport.
Mais est-ce que ça a été chanté par Frank Sinatra à l'origine ?
La chanson n'a pas été chantée par Frank Sinatra.
C'est un rapport avec l'actualité.
C'est un peu le principe de cette émission, voilà. Christine.
Donc, c'est le G20, c'est la COP21.
La COP21, oui, bien sûr. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu.
Ça se pourrait.
Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Et pourtant, vous connaissez tous cette
mais
chanson.
Mais oui, dans ce monde aventureux.
Est-ce que la chanson est rythmée, Laurent ?
La chanson est très rythmée.
Et Sheila ?
C'est Sheila.
Qui chantait
bah.
Comme les rois mages.
Bonne réponse de Christine, bravo.
J'ai cherché un homme. J'ai dit cela. J'ai cherché un homme.
J'ai jamais dit un homme.
Il a pas dit.
Comme les rois mages, effectivement, en Galilée, c'est les paroles de cette chanson écrite par Jean Schmitt. Mais c'est bien Sheila, évidemment, qui l'a créée en France, cette chanson. Vous connaissez l'air, vous vous souvenez ?
Plaise au ciel que j'ouvre les fenêtres.
Mes fenêtres.
Dans un monde aventureux.
Mais non, je sais pas.
Elle a déjà oublié de verre, là-bas. Qui est rare chez elle.
Ah ouais, ça.
Elle va encore faire gerber Sylvie.
Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres. Le matin, au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Bon, je ne sais pas chanter, moi.
Non, mais Sheila non plus.
Et alors, ce qui est marrant dans cette chanson, c'est que ça commence par « Comme les rois mages en Galilée ». Alors que c'est une erreur, puisque les rois mages ne sont jamais passés en Galilée.
Ah bon ?
Mais non.
Comment vous le savez ?
Ah ben parce que j'ai étudié le parcours, monsieur.
Non, alors
allez-y, donnez-nous le parcours.
Ah non, mais je vous jure, c'est une grosse erreur de la chanson.
Mais à l'époque, ils ne savaient pas flécher les rocades, peut-être.
Ah non, les rois mages qui arrivaient, alors, ça dépend des versions, hein. Soi-disant, il y en aurait un qui serait sur un chameau, hein, sur un éléphant,
oui.
et l'autre
avec diamant.
Une patinette.
Mais il paraît en effet que le texte contient une erreur. Les rois mages n'ont jamais pu traverser la Galilée. Voilà.
Ah bon. Ils sont passés par où, alors ?
Certes, Jésus est né à Nazareth.
Bah, le Nazaréen.
Voilà, en Galilée. Mais là, on est à Bethléem, en Judée, quand il est né.
Oui,
ce qui n'est pas du tout pareil.
Voilà. Et eux, d'où ils partent? D'où ils partent les...
De la porte Champéret.
Oui.
Non, ils viennent d'Orient. Ils viennent d'Orient.
Et ils suivent l'étoile du berger.
Ils oui. suivent l'étoile. Ils arrivent à Jérusalem.
Là, il rentre... y a deux changements.
Ouais. Ils rencontrent le roi Hérode. Hein.
Ah ouais.
Ils se renseignent. Ils demandent où doit naître le Messie. Alors là, il...
La Barcelone.
Non. Alors... qu'est-ce qu'il leur dit, Hérode?
Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit et vous tournez à gauche après le deuxième palmier.
Il leur dit, faut aller à Bethléem. Donc les mages n'ont aucune raison d'aller en Galilée.
Ah d'accord.
Chemin.
Voilà, vraiment, je vous jure.
Oui, mais la chanson,
elle a chanté des conneries, celle-là.
Oh, oui, pas celle-là.
Mais pourquoi vous avez posé cette question aujourd'hui?
Parce que nous allons faire une crèche laïque à RTL, oui. avec Jésus, joué par Stevie.
Ouais.
C'est Stevie qui sera... dans
avec
la mangeoire.
Dans l'âne, hein.
Jésus, vous voulez pas... Jésus, je l'appelle Stevie.
Mais vous pouvez, il a dû rester très simple.
Mais les voix du Seigneur sont impénétrables.
À tous ceux qui tentent de résoudre le mystère de la chaussette disparue, un témoin affirme vous avoir vu hier avec deux chaussettes à rayures, aujourd'hui aucune trace de la chaussette gauche. J'espère que vous avez un bon alibi. En ce moment, Intermarché offre 80% en avantage carte sur les 38 capsules de lessive Skip Ultimate Trio Active Clean, soit seulement 2,90€ avantage carte déduit. Et ça aussi, c'est dans l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 9 juillet, 14,50€ prix payé, 806 grammes, soit 17,99€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
En revanche, Stevie, peut-être qu'il faut que je vous présente Dari
oui.
Boudboul.
Oui, oui, oui.
Vous ne connaissez pas Dari Boudboul?
Ah si, de nom, parce que vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois.
Alors maintenant, c'est qui Dari Boudboul?
Ben, je sais qu'elle est sur un cheval.
Oui, mais alors là, il y a un problème déjà. Ça va déjà pas, parce qu'on m'a donné le réhausseur d'Ariel.
Oui.
Oui, mais sauf que ça va bien en hauteur.
Oui.
Mais mes fesses ne rentrent pas dedans.
C'est vrai qu'elle a des petites fesses, Ariel.
Évidemment, elle tient dans un rousseur pour 6 ans, moi.
Et tu cours toujours aussi vite? À cheval, hein?
Oh, non.
Est-ce que vous montez encore, d'abord?
Oui, je monte encore.
Mais vous avez un cheval à la maison, je veux dire?
Non, moi, chez moi, j'ai que des vieux, parce que je fais que du sauvetage de refuge.
Ah, ça, c'est bien.
Mais je vais à côté d'Alençon, comme ça, je passe par le Mans.
Ah, génial. Et ah, bah, faut passer par le café.
Bah, café ou peut-être mieux, un petit rhum.
Ah oui, elle naît, elle. Hein.
Elle aime bien le rhum.
Non, mais c'est pas être alcoolique, le rhum, c'est être un pirate.
Ah bah, moi, c'est un rhum qui arrive directement de Marie-Galante, parce que ma tante, elle a un truc là-bas, donc le rhum, il arrive directement...
Oh, il a des tantes qui arrivent de partout. À mon avis, c'est vrai que Dari Boudboul devrait normalement avoir beaucoup... Parce que de goût pour vous, cher Stevie, parce qu'il a, de toute façon, il faut le dire, une bouche très chevalide.
Oh non, arrêtez avec ça.
Vous pouvez lui mettre le mort aux dents.
Oh Stevie. Non, c'est
Regardez cette dentition de Fernandelle, on croirait un canasson.
Après tout ce que ça m'a coûté chez le dentiste, pour faire limer tout ça, vous imaginez?
Ah, c'est un dentiste.
Même chez le dentiste, il se fait limer.
mais en plus, c'est dramatique, parce que ce week-end, j'ai bu un bon thé chaud, comme il faisait très froid. Je me suis cassé le bout de la dent.
Oh, hein.
Oh.
Regarde, le trou, il est plus gros devant.
On sait très bien que vous préférez le bout de la dent que le bout d'Ève.
Oh. Ah oui.
Vous allez bien, monsieur Toen, vous voit faire la gueule, n'avez pas dit un mot depuis le début.
Ah non, mais c'est sympa d'inviter des gens de l'ERTF, mais j'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on parle un peu de moi et je vais vous raconter une histoire.
Bah, en tout cas, l'appétit va. Hein.
Ouais.
Il a une montagne de croissants devant lui.
Bah, il y a quelqu'un à la disjockey.
Il est payé en croissants.
Donc, Chantal, moi, tu sais, j'ai le wifi. Et je vais sur mon ordinateur avec la marque de fruits, là, américaine, et je vais sur les réseaux sociaux des grosses têtes et je regarde les commentaires.
Oui.
Des cas sociaux, des internautes, pardon, à chaque fois je les confonds. Et je vois bien les gens, ils font, vas-y Toen, t'es super, t'es la meilleure recrue depuis Will Smith et le professeur Out. Lâche-toi, tu nous fais rire, on s'en fout, tu joues un personnage, on sait pas si tu le penses, bref, continue, les autres sont nuls, lâche-toi. Il n'empêche que samedi soir, j'ai fait l'émission avec vous, Laurent.
Oui, bien sûr.
J'ai tourné en direct et c'était pas évident. Mais j'ai fait une rencontre amicale formidable.
Ah, sans rire.
Eh ben, j'ai rencontré Geoffrey le Jeune.
Oh.
Le rédacteur en chef de Valeurs Médiévales. Geoffroy le Jeune. Enfin, Valeurs Médiévales, Valeurs Médiévales. Tu, c'est pas Valeurs Actuelles. Hein. Tu ouvres, je te jure, c'est Valeurs Médiévales. Mais si t'aimes le Moyen-Âge, pourquoi pas? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger? Il vient me voir à la fin de l'émission, il m'a salué, il m'a dit ouais, bravo, tu m'as fait marrer. Oh, j'étais content, moi, tu sais, je suis un pauvre type. On me dit que je suis génial, j'y crois, tu vois. Et on est sorti après. On est sorti, alors on était à la taverne alsacienne, on a bu une bière. Après, on était au Full Metal, vous savez, c'est en face de la Commandatour, c'est un bâtiment.
Je croyais que c'était vraiment en plus. J'écoute sérieusement.
Tout le monde en slip en cuir, on écoutait du Beethoven et du Wagner. Mais une soirée géniale.
Et tu m'as pas appelé.
Et le mec est super sympa, comme quoi à l'extrême droite ils sont sympas, alors qu'à la gauche, hein, Gérard, à gauche ils sont horribles. Bref. Et on s'est dit, on peut pas se quitter comme ça, c'est comme une rencontre entre deux potes. Il est venu à la maison, on s'est maté une comédie, hein, La Liste de Schindler. Oh. On a rigolé. Il a dormi à la maison. Non, j'ai viré ma femme et mon gosse, le lendemain matin, on fait qu'est-ce qu'on fait? On peut pas se quitter comme ça, c'est rare une émission, une rencontre, c'est comme avec Michel Fon, on peut pas se quitter quand on le voit. Toi. On a été faire, on était dans le 9-3, on s'est fait un safari. Alors, manque de bol, il y avait pas beaucoup d'antilopes. Donc on s'est rabattu sur les locaux. Malheureusement, il paraît qu'il y a des caméras de sécurité, ça craint un peu. Donc merci Laurent pour samedi. J'ai rencontré un ami.
Il est fou.
Grâce à vous.
Monsieur Faux. On vous a manqué, hein, monsieur Faux.
Oui, bien sûr. Mais Geoffroy Lejeune est quelqu'un de très cultivé. Non, mais c'est vrai qu'il est charmant, il est charmant.
Non, mais il est charmant. Et il est une bite, il est une bite.
Ouais, c'est vrai.
Il est viril. C'est rare pour un mec d'extrême droite. Collard est une bite horrible. Horrible. C'est pour ça qu'il s'est barré, d'ailleurs. Qu'il a été voir Zemmour.
Pardon, mademoiselle Boutboul, le ton a parfois un peu changé ici.
Mais justement, je me demandais s'il y avait des mots qu'on avait le droit de dire, de dire, justement. Bon, je vois bite, mais c'est un vilain mot. C'est pas joli.
Non, mais vite, c'est sur le coin des trottoirs.
Oui, mais c'est pas beau. Alors que couille, c'est ravissant, ça sonne bien. C'est...
Moi, ouais, couille, moi, il manque couille. La partie principale, quand même. Hein.
Non, mais c'est beau, c'est féminin, c'est léger. C'est
aussi.
Il y a clitoris.
Alors couille, c'est pas féminin. Ça dépend apparemment d'allure, c'est pas féminin.
Je l'ai vu toute nue. On a été dans la même loge autrefois.
Et alors?
À poil, sans culotte. J'ai cherché, je regardais. En plus, je suis presque au niveau, moi. Eh bien, il y a que dalle. Ça a été hyper.
Il n'y a même pas un bout de gland qui reste.
Bah, rien,
Un ticket de métro,
Une fouffe nette, normale.
Bah, je le savais, j'en étais sûr.
Tu vois?
Alors qu'elle est en balle. Moi, j'appelle Ariel Dombas, d'ailleurs, en ce moment.
Il est très bien,
c'est à vous.
Je crois qu'il est temps, parce que ça n'a pas changé, Madame Boutboul. Il est temps de passer par une première citation pour Monsieur Cotin, Léo Cotin, qui habite Bordeaux, qui a dit « Le commerce va très mal. Même les gens qui ne payaient jamais n'achètent plus. »
Pierre Doris ?
Pas Pierre Doris.
Dac ?
Pierre Dac. Bonne réponse. C'est un classique pour démarrer. Pour Corinne Pernet, qui habite Château-Thierry dans l'Aisne, qui a dit « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En Russie, tout est interdit, même ce qui est permis. »
C'est un Américain, non?
Non, pas un Américain.
C'est français?
C'est pas récent, ça.
C'est Alphonse Allais, Alphonse Allais.
Non, c'est pas français, ça n'est
c'est
pas...
un homme politique?
Ça n'est pas... C'est un homme politique.
Winston Churchill?
Et c'est Winston Churchill. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Là, maintenant, je vous parle de la Madone des Matelots, une figure emblématique des années 1930. Voilà. Et oui, c'était les années folles et elle a popularisé, on peut dire, le milieu lesbien parisien. C'était assez précurseur à l'époque, vous imaginez.
Oui, bah oui.
Elle interprétait ses amours saphiques.
Suzy Solidor.
Comment vous dites?
Suzy Solidor.
Comment vous savez ça?
Parce que j'aime beaucoup les chansons des années 30, parce que je suis très moderne comme garçon.
Eh bien oui, c'est Suzy Solidor.
Bravo.
peu long.
Je connais pas alors.
Excellente
blonde
réponse.
Patine, elle était comme Chantal là-dessous.
Il y avait un documentaire sur elle, là, sur France 5. Et elle expliquait d'ailleurs que pendant la première guerre, elles avaient bien fait de s'amuser. Et on a bien fait de s'amuser, on savait que ça durerait, on croyait que ça durerait pas. Et c'est vrai que c'est une des chanteuses, artistes, garçonnes, Madone des Matelots, qui a été une des pionnières du genre. Mais il y a des enregistrements parce qu'elle est morte dans les années 80, vous voyez, c'est pas si.
Ah ouais?
Ah oui, elle est décédée en 1983. Elle était née en 1900 et est morte à 83 ans. Suzy Solidor, voici sa voix à Suzy Solidor.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, de Lydie Marlène. Près de Lydie.
Ça craque un peu parce que Michel Faux n'a pas eu le temps de nettoyer le disque, mais...
Non, mais au moins, on comprend ce qu'elle dit.
Ouais, c'est pas dans la loi de le roi.
Hein. Oh. Mais en tout cas, entre être lesbienne, enfin, les lesbiennes, on le voit en poupe. Hein. On les voit partout.
En troupe, en troupe.
Mais non, mais elles sont dans toutes les séries. Moi, je regarde toutes les séries. Elles, il y en a partout.
Maintenant, il faut des nanas, des nanas, des noirs. C'est l'enfer.
N'importe quoi.
Avec Michel, on a voulu faire la suite de Top Gun. On a...
Non, Top Queen, ça peut marcher.
Ah là 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 là. Non, mais moi, j'ai jamais autant vu de Gwyn, en tout cas dans le cinéma, dans les séries.
Non, c'est
vrai.
Les...
Non, mais c'est vrai.
Heureusement,
mais tant
il y a José Taillant. Heureusement, il y a José Taillant.
Mais tant mieux pour elle, tant mieux. Parce que nous, on nous a beaucoup vu, elle moins, je trouve.
Oui, voilà, pour ça, je tente beaucoup, d'ailleurs.
C'est vrai que tu fais un peu...
Ah ben bah, non, mais sur les chanteuses, c'est pareil aujourd'hui, bien sûr. De nombreuses chanteuses sont...
Ah bah ouais.
Mais oui, mais c'est bien. Elles n'osaient pas le dire. Maintenant, ils le disent. Voilà. Comme quoi ça a changé depuis Suzy Solidor et c'est un progrès, monsieur Boulet.
Ah, mais moi je suis pour, mais tant mieux. Mais sauf que quand même, dès que j'allume la télé, je ne vois que ça maintenant. À chaque fois que j'allume, je vois deux femmes qui s'embrassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je dis
non,
pas
mais
rien.
C'est bien, on apprend des trucs, mais à quelle
heure ? Non, je sais pas. Je dois être maudit.
Ah non,
enfin, pas maudit, mais...
C'est
mais,
bien.
Mais je
suis bien.
Que j'en ai même fait la réflexion à mon ami. Je me suis dit, mais t'as vu ça quand même ? Dès que je prends la télécommande, je
c'est génial.
Où je choisis une série.
Voilà que maintenant les PD sont choqués parce qu'il y a deux femmes qui s'embrassent à la télé.
Tant mieux. Il y en a quand même beaucoup. En
ah, ah non, mais alors, j'aurais tout entendu ici.
Vous êtes lesbianophobe. Vous êtes lesbianophobe.
Bah, en vrai, ma meilleure copine était lesbienne. J'ai même vu la Dame Blanche avec une copine lesbienne sur une route de Normandie.
Mais arrête, ta meilleure copine, c'est Alessandra Sublet.
Même...
même sa mère était lesbienne.
Ah non, mais j'adore ça.
Ça, sauf que... ça devrait vous faire plaisir. Plus il y a de femmes homosexuelles, plus il y a d'hommes de libre.
Ah bah oui, non,
mais... Réfléchissez. C'est un peu
inévitable.
On est en 1952.
Non,
ah,
non, en
2021, Laurent.
Non, mais d'accord. Mais je vous demande de vous. C'est-à-dire vous
se projeter.
Pas vraiment vous projeter.
Non, retour vers le passé.
Ben voilà, de retourner vers le passé, on va dire 70 ans en arrière quasiment, en 1952. C'est la fin de l'été.
Oui.
Le président du magasin, des plus grands magasins de New York, vous connaissez son nom, le plus grand magasin de New York.
Saks Fifth Avenue.
Non, Macy's.
Macy's.
Déjà une première question à laquelle vous n'avez pas la réponse.
Il y a Bloomingdale. Non, il y a Bloomingdale.
Bloomingdale. Oui, mais le plus grand, c'est Macy's.
Oui, mais il y a... Oui. C'est le plus grand.
C'est le plus grand.
Le plus grand, c'est Macy's. On va pas faire un azur là-dessus.
Non.
C'est le plus grand.
Et donc, le président de Macy's rentre de vacances. Et là, il ordonne que dans les rayons, parce qu'il constate que c'est absent des rayons de son grand magasin, qu'on trouve désormais, quoi donc ?
Moi, je sais, des bikinis.
Des bikinis, non.
Bah, la crème solaire, des lunettes, des tongs.
De la crème solaire. Des tongs, non.
C'est lié à l'été, j'imagine, non.
Alors, c'est lié à ses vacances.
Attendez, à tous les rayons, il veut ça.
Ah non, pas à tous les rayons.
Non, d'accord.
Des Havanas.
Des Havanas, non.
Des bikinis.
On est en 1952.
Alors, de l'huile Johnson & Johnson.
Ah non, écoutez, ça n'a aucun rapport avec les vaccins. Écoutez-moi un tout petit peu, il passe des vacances. Bon,
oui.
En 1952. Il est président du plus grand magasin de New York. Il rentre de vacances. Et effectivement, pendant ses vacances,
il y a eu des noyades.
Il a fait quelque chose. Et il se dit, tiens, je vais vérifier s'il y en a dans mon magasin.
Ah.
Et il s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Et là, il réclame qu'il y ait dans les rayons du magasin. Quoi donc ?
Ah, des chapeaux ? Des palmes. Alors,
des palmes. Il est en vacances au soleil ?
Alors, peu importe qu'il soit. À mon avis, même, il n'a pas fait très beau.
Ah. Des parasols.
Ah, des raquettes.
Des raquettes, non.
Un tuba, non. Ça existe encore dans les magasins.
Ah oui, oui, ça, je vous confirme.
Ah, des bottes en caoutchouc.
Des bottes en caoutchouc.
Du golf caisse.
C'est lié à une activité physique.
Des bottes en caoutchouc, comment vous dire.
Des Durex.
Oh. Stéphane, il faut vraiment que tu le fasses. Hein.
Ouais.
Ça devient gênant, là.
Ça, oui, ça devient gênant et c'est criant, maintenant.
C'est les deux qui font rien qui me disent ça.
C'est quelque chose pour les femmes ou pour les hommes.
Ah, vous êtes mignons.
Les hommes.
Alors, est-ce que c'est pas tout simplement de la crème solaire?
Ah non, protectrice. Non, je vous ai dit que...
Des lunettes ? Il n'a pas fait particulièrement beau.
À mon avis, il n'a pas dû faire très beau.
C'est quelque chose qu'on porte.
Ah non, on ne le porte pas.
C'est cher.
C'est cher.
Et ça se porte ou pas ?
C'est pas très cher et ça se porte pas.
Ah. Donc c'est un accessoire.
Ça s'ingère pas.
Ça se met dans une maison ?
Oui, c'est plutôt la
maison. Vous en achetez régulièrement ?
Ah, donc une fois qu'on en a acheté un, on peut éventuellement en acheter un deuxième.
Ah, des magnettes ?
Non. Mais
un frigidaire ?
Généralement, on n'en a qu'un à la maison. Ou alors on veut le renouveler.
Ou
alors on veut en avoir un plus luxueux. Alors là, on en achète un deuxième, mais autrement, on n'en a qu'un.
Est-ce que un tire-bouchon,
non.
Tout le monde en a, à votre avis ?
Un WC ?
Alors, je pense que Mademoiselle Mergot en a un chez elle. J'imagine Monsieur Stevie aussi, vous aussi, Gazan. Plaza, non.
Un dictionnaire ?
Chantal, non, pas un dictionnaire.
Pourquoi on n'en aurait pas, nous ?
Oh, vous, non.
C'est dans quelle pièce de la maison, plutôt les pièces timides ?
Pourquoi Chantal, on n'aurait pas ça ?
Oui,
Chantal, oui.
Alors, je suis seul à ne pas avoir ce truc-là ?
Du dentifrice ?
Je serais surpris, vous me direz si vous en avez.
Moi, j'ai le plus d'appartements sur cette table.
Du dentifrice ?
Plus du bec, vous trouvez ? On l'appelle la décolleuse dans le métier.
Une ventouse pour déboucher les canalisations.
Est-ce que c'est dans une pièce où il y a de l'eau ?
Est-ce que ça peut se mettre dans un sac à main ?
Dans un sac à main, non.
Dans un sac ?
C'est grand quand même.
On l'emmène en
vacances ? À moins que vous en achetiez un de voyage, voyez-vous.
Est-ce que ça se met dans la salle de bain ?
Non.
Toupie ?
Une toupie ?
Or, notre toupie ? Alors peut-être simplement des transats ?
Non, puisque je viens de vous dire...
Il ne faisait pas beau.
Je n'ai pas dit qu'il ne faisait pas beau. J'ai dit, à mon avis, il ne devait pas faire trop beau.
Un parasol ?
Non.
Un bilboquet ?
On peut savoir dans quel pays il était.
Oh non, peu importe.
Un bilboquet ?
C'est un architecte new-yorkais qui a créé ce que le président de Macy's a réclamé dans son magasin.
Des livres ?
Une chaise pliante ?
Non, en 1952.
Est-ce que c'est rapport à la lecture ?
Non, mais vous voyez, ça c'est bien parce qu'on voit que vous réfléchissez, chère Isabelle. Et comme j'ai dit effectivement qu'il ne devait pas faire très beau, vous dites, il a lu. Donc des livres, ouais. donc de la lecture.
Une petite lampe.
Au moins, vous êtes sur un bon chemin.
Des marque-pages ?
Alors, mais c'est pas ça.
Un
Walkman ?
Un Walkman, non.
Donc
c'est une activité. Un allume-feu.
Des mots fléchés, un jeu.
Un sudoku.
Un sudoku, mots fléchés, des choses comme ça. Des bouquins.
Un Monopoly.
Un Scrabble. Bonne réponse, Florian Gazan. Très aidé par Isabelle Mergot, un Scrabble. Et oui, le Scrabble avait déjà été inventé quelques années auparavant. Il s'est trouvé, j'imagine, chez des amis. Il devait pas faire très beau parce que quand on commence à jouer au Scrabble pendant les vacances, c'est que c'est que généralement on n'a pas.
On s'emmerde avec un Scrabble.
Alors avouez que vous n'allez pas chez vous.
On n'est pas chez moi.
Voilà. Voilà.
Ça servira à quoi ?
Voilà, j'étais sûr.
Il faut savoir écrire pour avoir un peu une vie de famille quand même. C'est pas que ça. Ah mais parce que est-ce qu'on peut jouer tout seul au Scrabble ?
Non,
pas du tout.
Lui, parce que faire ça, c'est un A. Ça, c'est un B.
Même quand il joue tout seul,
il joue tout seul, mais il perd. Une question pour Jean-Pierre Jouve, qui habite Vierzon, dans le Cher. Qui a appris ce qui allait devenir son métier quand il était chez les scouts de France et quand son totem était anguille frémissante?
Un homme politique.
Jean-Phi a appris des trucs chez les scouts, à mon avis.
Un indien?
Non, c'est quelqu'un.
Est-ce
que c'est lié à la pêche?
C'est quelqu'un, d'ailleurs, dont vous pourrez voir une exposition à la Bibliothèque nationale de France, je vous
Garouste.
Dis. Jusqu'au 22 août, vous avez dit?
Garouste.
Non.
Un français?
En fait, on fait
fait peu.
Ah non, c'est Garou, tu confonds.
Pardon,
non,
pour Garou. Garou, pour Garou, on fait peu de peinture chez les scouts, hein, vous savez.
Mais j'en sais rien, je veux dire.
Est-ce qu'il était français?
Ah, ah oui, il y a des pinceaux. Hein. Alors oui, français, bien sûr.
Alors, est-ce que quand il était chez les scouts, il aurait eu un badge, genre meilleur cuisinier, etc., qui était son métier futur?
Non, mais on lui a donné quelque chose avec lequel il a appris.
Haroun Tazieff.
On lui a donné un pinceau, vous dites qu'il est peintre.
Mais non, c'est elle qui a dit qu'il était peintre.
Il est décédé.
Ah d'accord,
je crois. Il n'est pas peintre du tout.
Alors,
enfin, quand je dis du tout, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il a,
il
a pas aussi. Je comprends rien.
Ah, si, si,
il
était photographe.
Non.
Il était photographe.
Ouais. Doano. Manet. Cartier-Bresson.
Henri Cartier-Bresson. Bonne réponse de Paul Elkarat pour Ludivine Perrault, qui habite Chalon-sur-Saône. Puis vous me donnez l'autre nom de la maladie de Gélinot.
Ah, la maladie de Gélinot, c'est la narcolepsie.
Oui.
Exact, la narcolepsie. Bonne réponse de Paul Elkarat.
Moi, j'allais dire, mais j'étais en train de te le dire, je peux aller dans le public.
Tu seras la maladie moins. De Gélinot, ôté oui. Du nom du psychiatre qui a découvert la narcolepsie chez des patients.
Effectivement, c'est un médecin.
J'aimerais bien voir un narcoleptique une fois.
C'est un médecin militaire français qui s'appelait Jean-Baptiste Gélinot, qui a été le premier à donner une description en 1880 dans la Gazette des Hôpitaux. Une description de ce qui allait devenir, c'est lui qui a inventé le mot, la narcolepsie, ouais. Un engourdissement, une somnolence qui prend subitement. Ça vous arrive, vous, Christine?
Ouais, ça peut m'arriver, naturellement.
Bah, après
mais...
une caisse de rosée,
ouais, oui,
quand tu
oui, parles, ça arrive à après une caisse de rosée,
par exemple. Ah oui, après une caisse de rosée, la narcolepsie.
C'est assez courant, du coup.
Mais ça arrive à Jean, en pratique, Christine.
C'est vrai que moi aussi, je reconnais.
Non, mais d'un coup, tu peux parler 3 minutes à une personne, ouais, et en fait, elle s'est endormie, elle t'écoute plus.
Non,
Paul, ouais. Tu travailles déjà?
Non.
Et
non.
Tu te prédestines à faire quoi? Parce qu'avec une telle culture...
Le chômage partiel, je pense.
Moi, je pense que tel qu'il est parti, il peut être aux grosses têtes à peu près le même nombre d'années que Jean Dutour.
Ouais.
Il est ici pour un moment. Mais il a
jusqu'à
raison.
91 ans, du coup.
Il ne s'agit pas de culture. Un perroquet, il n'est pas cultivé.
Ben là, j'ai...
Il répète.
Là, je répète quoi? Je répète rien du tout, là.
Tout ce que tu as lu, tu le répètes.
Bah, c'est pas répété.
Tu peux répéter, toi, tout ce que tu as lu.
Mais c'est pas faire des jeux de télé.
Elle est même pas capable de répéter ce qu'elle a vu. Elle a rien
non,
lu.
Moi, en fait, je me destine. J'aime bien l'écriture, écrire. Je suis en train d'écrire un livre là en plus.
C'est pas vrai.
Sur quoi?
Un roman.
Sur les tueurs en série, parce que j'adore la criminologie.
Ah, bah, ça tombe bien.
C'était... Je les connais tous.
Quand je vous dis quand
et toi, je les connais tous.
C'était ma question suivante.
Vas-y. Pousse-toi les oreilles.
Elle les connaît, elle leur a tout appris.
Non mais déjà.
Tu me laisses pas le plexiglas.
Il s'agit du premier serial killer français.
Vas-y, vas-y.
Paul.
Mort guillotiné. Le 8 mars 1862.
Bouvier.
Je l'ai déjà.
Non, c'est le gendarme.
Vaché.
Non, plus.
Vaché.
Bon,
bah... Je l'ai déjà.
Bon, alors donne-le.
C'est Martin Dumollard.
Martin Dumollard. Bonne réponse de Paul Elkarat.
Jamais entendu ce nom.
Il a joué.
Et d'ailleurs, dans mon second tome, je vais parler de Martin Dumollard, qu'on surnommait le tueur de bonnes.
Ouais.
Parce que depuis 1855, il se rendait à Lyon pour chercher des bonnes pour travailler chez lui. Et en cours de route, il jetait sa valise et il voulait l'assassiner.
Ouais.
Et justement, c'est le garde champêtre qui a reconnu qu'il avait une cicatrice.
Ouais.
Et donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont guillotiné en 1862. Et d'ailleurs, il y a plusieurs spécialistes de la criminologie qui en parlent.
C'est pas très clair, ton histoire.
lui-même n'est pas clair, en fait. Sa femme, d'ailleurs, comme Fourniret, elle l'aidait aussi dans ses œuvres.
Marie-Anne savait tout des agissements de son mari.
Ah. Elle avait trop peur de lui, en fait, parce qu'il était super impressionnant.
La peur de bonne.
Enfin, là, on n'est pas sûr qu'elle n'était pas très consentante aussi.
Mais elle avait très peur de lui.
Oui, si tu as très peur d'un mec, tu peux quand même...
1200 t-shirts soutien-gorge culottes retrouvés chez lui.
Il en
a dû en tuer 3 ou 4. Hein, la dernière, elle s'appelait Marie Pichon, la dernière. La dernière s'appelait Marie Pichon et justement, elle avait tellement l'envie de vivre qu'elle s'est enfuie à travers champs et elle a trouvé du réconfort auprès du garde champêtre qui après...
Alors qu'elle avait plus de tête.
J'aime bien.
Elle avait...
Vincette,
moi, j'aime beaucoup le. Elle avait tellement envie de vivre. Parce que les autres, moyen.
Elle me disait, bon.
En tout cas, il a été.
Non, mais face à lui, c'était difficile de.
Il a été condamné à mort le 1er février 1862. Sa femme a écopé de 20 ans de travaux forcés.
Ah, bien.
Et ce qui est incroyable, c'est que quand il a été guillotiné du Molard, hein, monsieur Martin du Molard.
On a fait un truc de sa tête.
Alors,
un moule de sa tête.
C'est pas ça qui s'est passé. Écoutez bien.
Aussi.
Il y a un aumônier, un curé qui est venu le voir. L'aumônier a accompagné du Molard jusqu'au pied de l'échafaud et bon voilà, il a voulu avoir des paroles réconfortantes parce que c'est pas rigolo d'être guillotiné.
Non, c'est pas rigolo de tuer des bonnes non plus. Hein.
Non, c'est vrai. Alors, il lui a dit à du Molard, courage, vous allez dîner avec les anges au banquet éternel.
Oh, bah, c'est gentil d'avoir dit ça.
Et du Molard lui a répondu, passez donc devant monsieur le curé, vous ferez mettre le couvert.
Mais c'était rigolo.
Bien.
C'est quand même pas mal.
Ah ouais, c'est pas
c'était
mal.
Un rigolo du Molard.
Oh, on peut pas dire que c'était un rigolo.
Non. J'adore ce nom. On dit un héros du
Molard.
Du Molard. Ils ont réussi à le retrouver parce qu'ils avaient un portrait craché.
Ouais. Là, c'est un
petit joli.
Caroline Nicolas, qui habite Cubnozet, dans la Gironde. Et la question concerne un Chinois. Un Chinois qui n'a pas vraiment eu de chance. Et
apparemment, alors.
Monsieur Hon Lik, qui, effectivement, il y a 10 ans déjà, a fait quelque chose dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, mais qui ne lui a pas tant rapporté que ça.
Il a changé de sexe.
Si, je sais. Il a changé de sexe. Le fondateur d'Alibaba.
Ah, bon, expliquez-moi ça, le fondateur d'Alibaba. Rien.
Non, c'est pas ça.
Allez-y.
Non, le grand réseau du net.
Il s'appelle Jack Ma.
Hon Lik, non, on n'a pas fondé Alibaba.
Il en est mort.
Ah non, il vit encore, monsieur Hon Lik.
Ah, c'est pas le mec Place Tiananmen avec les sacs plastiques devant les chars.
C'est le photographe. Enfin, c'est plus vieux qu'il y a 10 ans.
Oui.
Lui, il y a 10 ans, il a déposé un brevet, il a fondé sa marque. Mais...
La clopinette, la vaporette, c'est lui qui a été... maintenant, ça risque d'être interdit. Donc...
C'est l'inventeur de la vaporette, monsieur Hon Lik. Bonne réponse de Laurent Duffy.
Qui emmerde l'Académie française.
Méfiez-vous, Ariel Dombal, parce que vous vapotez, hein, c'est dangereux.
Je vapote, mais en plus, bizarrement, j'ai eu un premier contact avec ce Hon Lik.
Ah oui ?
Oui.
Le monsieur chinois ?
Ben, j'ai commencé la petite cigarette électronique très très tôt.
Ouais.
Elle venait d'être inventée.
Ça avait été la peur.
Et justement, quelqu'un m'a approché pour représenter et j'ai fumé. Et c'était c'était lié à ce Hon Lik.
Ah oui ?
Oui.
Il vous a payé combien pour vapoter ?
Ben justement, il devait me donner 100 000 dollars.
Et il n'a rien donné du tout.
Non, mais 100 000 dollars juste pour que je l'ai, comme ça. Et puis, je n'ai jamais touché les 100 000 dollars.
D'accord.
Et je suis devenue accro à cette
petite... Et tu t'es encore fait baiser, t'es contente ? Moi, ça fait un an, Laurent, le 15 avril que j'ai arrêté.
C'est pas vrai.
Et mon conseil pour les gens qui voudraient arrêter de fumer, il faut sacraliser la dernière cigarette. Moi, je me promenais dans Paris, je suis monté sur un échafaudage, j'ai dominé tout Paris, j'ai allumé la clope et j'ai crié aux gens, c'est ma dernière! J'ai tiré 3 tapes, je l'ai jetée, et quand je suis descendu de Notre-Dame, j'étais fier de moi.
Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL.
Julien est au téléphone depuis Salon de Provence. Bonjour Julien.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Julien. On est obligé de vous interrompre un instant Julien parce que Roselyne Bachelot vient de s'apercevoir qu'elle était partie de LCI avec l'oreillette.
Une interview il y a 8 jours.
Hein. Et pourquoi pas, ça fait 8 jours que quelqu'un lui parle dans l'oreille. Elle dit, faut que j'en parle à mon médecin quand même.
Attends, c'est quelqu'un qui radote, qui dit rapportez-nous notre bien.
Mais vous savez que ça coûte très cher une oreillette.
Mais je vais la rapporter religieusement.
Ah non, c'est toujours ça de prix pour RTL.
Ça appartient à M6 maintenant.
Non, bah oui, j'espère qu'on n'a pas entendu les grosses têtes sur SCI.
Ah non, ça marche dans l'autre sens.
Oui.
Mais c'est on
c'est
te parle.
Oui, c'est pas un micro.
C'est pas un micro.
C'est pas un micro.
C'est pas du tout un micro, en fait. C'est les gens qui te parlent.
Parce qu'elle se met le micro dans l'oreille aussi.
Et s'ils te disent bouter les Anglais de France, tu vas finir à Rouen sur la place du marché.
Et votre suppositoire, vous l'avez...
Oh. Non, mais où est mon crayon?
Julien, pardon pour cette petite digression.
Pas de problème.
Que faites-vous dans la vie à Salon de Provence?
Je suis conseiller commercial dans une grande agence des assurances.
Ah, très bien.
Chez Cerise.
Ah, pas mal, alors.
Voilà.
Julien, vous allez affronter les grosses têtes pour gagner, je vous le souhaite, un séjour d'une semaine pour 4 dans un village VVF. Prêt, Julien?
Je suis prêt.
À moins que vous ayez un petit message à faire passer avant.
J'embrasse tous ceux qui me reconnaissent.
Ouais. Très bien,
ah, ça, j'adore ça. Ça, j'adore, ah, oui. Ça, j'adore.
À la radio, c'est... Ouais.
C'est simple, c'est efficace.
Eh bien oui, c'est efficace. Ben, voilà. Grâce à votre voix, on peut tout à fait vous reconnaître. Monsieur Roderon, hein.
C'est ça.
C'est mieux comme si je donne votre nom pour qu'on vous reconnaisse, au fond.
Oui. Parfait.
Ouais. Julien Roderon de Salon de Provence.
Ah, on a un autre message du docteur Benahim, de le gynécologue à Salon de Provence, qui dit qu'il y a une dame qui est passée avec son spéculum il y a 3 semaines.
qui par erreur avait été glissé dans son oreille.
Il faudrait le ramener d'urgence.
Le slogan de Roselyne Bachelot. Tous les trous sont bouchés. Julien, voici la question qui n'a rien à voir. Roselyne Bachelot, encore que c'est de politique dont on va parler.
Alors. Politique.
Eh oui, je vais vous demander de retrouver le nom d'un candidat aux européennes qui a eu cette formule à propos de Madame Nathalie Loiseau. Qui a dit « Nathalie Loiseau, c'est la Richard Virenc de la politique, elle était candidate à l'insu de son plein gré. »
Nathalie Loiseau, c'est la candidate...
Ah, je vous le refais, si vous voulez.
Ouais.
Nathalie Loiseau, c'est la Richard Virenc de la politique. Elle a été
Richard Virenc de la politique.
Oui, alors écoutez, je ne savais pas qu'il y avait de l'écho jusqu'à Salon de Provence.
Apparemment, lui aussi, il a une oreillette. Hein.
Qui a
Est-ce
dit ça
que c'est quelqu'un de comment
Oui.
De Mélenchon?
Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise.
C'est Yann Brossat.
Et qui c'est Yann Brossat?
Il est tête de liste du Parti communiste.
Et c'est gagné, bravo. Julien. Eh oui, c'est la tête de liste du Parti communiste dont tout le monde nous dit ah, c'est la nouvelle coqueluche, il a fait une percée dans les médias.
Oh là là,
mais il n'y a que 3% dans les... Non, mais ça, il est toujours à 3%.
Ouais, c'est une petite percée. Hein.
Mais ils sont combien maintenant au PCF?
Ben, ils sont 3.
Depuis qu'ils ont vendu l'immeuble de la place du colonel...
Oui, alors Julien, il s'en fiche, lui, il va pouvoir partir à 4 dans un VVF village.
Super.
Avec qui vous partez, Julien?
Avec ma femme Aurélie qui est à côté de moi et qui m'a aidé, et avec mes deux enfants.
Et comment ils s'appellent les deux enfants?
Clara et Thomas.
Clara, Thomas, Julien, Aurélie, vous êtes déjà dans un VVF village de votre choix. On vous applaudit.
Bravo.
Une autre question. Une question assez facile pour Guillaume Éloi qui habite Condé sur Escaut. Quel est l'autre nom de la Venise brésilienne?
Angra dos Reis.
Pardon.
Angra dos Reis.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, c'est la Venise brésilienne.
Alors, c'est... Bah non.
Angra dos Reis.
Brésilien.
C'est une ville côtière.
C'est une ville, effectivement, brésilienne, vous l'aurez compris.
Oui, mais ça...
Et côtière, oui.
São Paulo.
São Paulo, non.
Manaus.
Comment vous avez dit?
Manaus.
Manaus,
non,
rien.
Oh non, elle est en pleine forêt amazonienne.
Mais oui, mais c'est...
Très beau théâtre à Manaus.
Ah, oui.
Non, tandis que là, on est...
Belém.
Vous dites
Belém?
Belém.
Belém ou Pará?
Non, 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 non.
Ça va donc.
Au départ, ça a été un petit port de pêche.
Saint-Tropez.
Saint-Tropez.
Est-ce que c'est un nom double ou un nom simple?
Si Christina Cordula était là, elle saurait.
Mais oui, j'arrive, je connaîtrai bien ce port.
La Venise brésilienne.
Ça va dans Dubaï.
Non.
Récif.
Excellente réponse d'Éric Lozérias. Vous pouvez m'expliquer en brésilien, évidemment, pourquoi Recife est la Venise brésilienne?
Il disait que c'était vrai de Venise brésilienne et que bien que fait, moi, c'est que j'ai une bite dans le cheval du bâton et bien que j'ai une bête de gondole. Il met une bête de gondole.
Et peut-être vous pouvez même me chanter « Laisse les gondoles à Recife ».
Mais du gondole du Recife, mais des berceaux de Belife, et que tu marches du Belife de Souzeau.
Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Quelle particularité physique présente une personne atteinte de polydactylie?
Elle a trop de doigts.
C'est-à-dire
elle a plus de doigts que la normale.
Poly, c'est plusieurs, et dactylie, c'est
les doigts.
Plusieurs doigts supplémentaires aux mains ou aux pieds.
Bravo.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Alors, j'avais une candidate de Secret Story qui avait ce problème de polydactylie. Elle avait 7 doigts de pied à chaque pied. Elle avait 2 doigts de pied supplémentaires sur chaque pied.
C'est pas pratique pour apprendre à compter.
Oui, elle était belge, je sais plus comment elle s'appelait.
Elle était belge une fois.
Ginny, elle s'appelait Ginny, je me rappelle.
C'est l'ordinateur, ça va écrire vite.
À l'Assemblée nationale, il y a une fresque de Delacroix dans le salon de gauche et une des personnages représentés a 6 doigts de pied.
Chacun ses références.
Ouais.
Elle t'a imité.
Elle est quand même impressionnante, Mme Bachelot. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcella?
Ah oui, mais j'adore.
Ah là là, elle répond pas souvent, mais quand elle s'y met.
Une question maintenant pour Vincent Martinez, qui habite Ivry-sur-Seine. Qui se sert d'une chambrière?
Ah oh bah c'est un fouet, une chambrière.
On vient pas que pour l'argent. Excusez-moi, je vais voir mes amis, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des conneries.
C'est une cuillère.
Et donc qui se sert d'une
cuillère?
Un
écuyer. Un dresseur.
Un dompteur, un dresseur. Excellent.
Excusez-moi. Elle a été ministre ou salope?
Écoutez, les musculatiles, le fouet.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais vous savez tout sur tout, Mme Bachelot.
Non, il y a un domaine. Mais je suis la plus vieille aussi, c'est normal.
Non, mais moi,
j'en connais des vieilles.
Vieilles connes.
Et t'as pas honte.
Moi, j'en connais des. La chambrière, c'est le long fouet, pas un petit fouet. Le long fouet utilisé depuis le centre de la piste par les dresseurs de chevaux. Même pour le lion, on fait claquer la chambrière devant le lion ou le tigre. Mais ça, évidemment, avec les animaux sans cirque, comme désormais on en aura de plus en plus.
Les animaux sans cirque, c'est tous les animaux sans cirque.
Dans l'autre sens.
C'est une phrase magnifique.
Mais ça marche dans les deux sens. Vous avez des cirques sans animaux, vous avez des animaux sans cirque. Je ne suis pas un animateur comme les autres, madame.
Oh, le pauvre, c'est un animal sans cirque.
Tu dois t'en oublier.
Vous avez une chambrière chez vous,
j'imagine. Ah ouais, il y en a plein qui régalent. Oui,
j'aime bien, mais je ne tape personne, je fais le bruit, ça leur fait peur.
Retire ta culotte. Laisse ta culotte, c'est moi qui pilote.
Ils s'en vont tous parce qu'ils disent ça fouette ici.
Je ne suis pas fan du fouet, moi.
Ah oui, ah oui,
ah oui. Non,
même en cuisine, Caroline.
Mais c'est pas le même. Hein,
oui, je sais, bien sûr. Je sais, c'est très dur de fouetter.
Ah oui.
De fouetter des œufs pour les monter en neige.
Mais t'aimes pas ça en dehors de la cuisine?
J'aime pas me salir les mains.
Non, mais je veux dire, les fouets, tu n'aimes pas ça?
Tu n'as jamais fouetté ton mari, c'est ce que je veux savoir, parce que moi, dès que ça parle de sexe, j'ai envie de parler. Sinon, je ne dis rien.
Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, Marcella, si ça parle pas de cul, si ça parle pas de cul, elle s'en fout complètement.
Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Crois-moi, la polydactylie, ça ne l'intéressait pas, on aurait parlé d'une polyéthrose.
Elle a raison.
Moi, plusieurs
fois. La polydactylie, oui, ça peut être masturbatoire, la polydactylie.
Je le savais.
Vous avez raison, elle s'est réveillée à scrotum.
Attends, on va essayer. Pour une autre question sexuelle, on va voir si elle a. Si elle
mais parle. Même tout, mais même si c'est pas sexuel, elle trouve un lien.
Vois, rien que le nœud de la valière, ça l'a fait rêver. Voilà,
exactement.
Voilà. Oh non, mais elle a trouvé Ravachol. Hein.
Ah, elle a trouvé Ravachol après le gong.
Oui, mais enfin, elle l'a trouvé.
Toujours après les gongs, c'est ça le problème.
Une question pour Louis Barba, qui habite Bordeaux. Si vous avez lu Libération aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question, puisqu'on y apprend qu'un monsieur qui s'appelle José Marthe réclame quelque chose que Madame Elisabeth de Tonquédec ne veut pas lui donner. De quoi s'agit-il?
Un enfant.
Non, Madame de Tonquédec ne veut pas un enfant. Pour tout vous dire, elle est même Madame de Tonquédec, Elisabeth de Tonquédec, supérieure générale des sœurs de la Charité de Nevers.
Ah bon, bon, bon.
Ah, alors c'est un héritage. Il y a eu un don qui a été fait.
Pardon.
C'est une relique qu'elle veut pas rendre.
Elle veut pas rendre une relique. Ça, c'est vrai. Plus mieux qu'une relique, d'ailleurs.
C'est à l'intérieur d'une monstrance.
Qu'est-ce que vous dites?
Une monstrance.
C'est quoi une monstrance?
Eh bien, c'est là où on met les reliques.
On peut dire reliquaire.
Ça s'appelle une monstrance, ouais, reliquaire. Voilà.
Une monstrance,
une chance. Oui, je vous apprends ça au passage.
Merci, Jean-Baptiste. Merci, Ariel. Merci de nous apprendre tant de
choses. Monstrance. Christina au bois de Boulogne, des monstrances, si j'en avais.
Ça a un rapport avec le culte? Je dis bien culte avec un T.
Au bois de Boulogne?
Ah non, mais non. rien à voir avec le bois de Boulogne. Non, ça, ça a à voir avec la religion, c'est sûr. Mais Madame de
Tonquédec,
non, Madame de Tonquédec, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Nevers, ne veut pas rendre à José Marthe, qui n'est pas du tout de la même région qu'elle. Je vous donne une petite précision. C'est deux pages dans Libé aujourd'hui, oui. Hein, quand même.
Ils ont un problème avec la hiérarchisation de la formation, vos amis de Libé. Je dis,
pourquoi
on peut se faire deux pages là-dessus, c'est du délire.
Vous savez pas sur quoi faire pour l'instant.
C'est le prépuce de Jésus.
Non.
Moi aussi, je peux faire des blagues. Hein.
Manœuvre est vraiment devenue grosse tête. Hein. Il n'y a pas à dire, il est dedans.
C'est le voile d'une sainte.
Mieux que ça.
Mais c'est un truc régional, puisque...
La couronne d'une sainte.
C'est plus que régional, c'est international, monsieur. Je comprends que monsieur...
La Vierge Marie.
Ah non, il ne réclame pas la Vierge Marie quand même. Non, non. Mais il y a un lien avec la Vierge Marie. Monsieur José Marthe réclame à Elisabeth de Tonquédec, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Nevers. Qu'est-ce qu'il lui réclame?
Est-ce que c'est un morceau de la crèche?
Un âne. Attends, elle est à Nevers. C'est le bœuf de la crèche.
Non, mais c'est carrément, vous me dites, des os, un œil, oui. Un prépuce.
Ah, mais non, mais carrément, le corps d'une sainte.
Le crâne.
Le corps d'une sainte. Alors, bravo, on
le
avance.
Crâne. Le
ah, bah, c'est le corps
le
d'une sainte qui a grandi dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, ou en plus en bas. Il y a qui comme il y a Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette Soubirous.
Alors, allez-y, oui, c'est donc.
Et il réclame le corps de Sainte Bernadette Soubirous.
Il réclame le corps de Bernadette Soubirous. Bonne réponse de Laurent Dos.
Bravo,
il nous a sauvés.
Mais pourquoi il lui réclame son corps?
Eh bien parce que Bernadette Soubirous, contrairement à ce que les touristes qui viennent à Lourdes croient, n'est pas du tout enterrée à Lourdes. Elle n'est pas dans sa région d'origine, puisque à la fin de sa vie, elle est allée se réfugier dans un couvent là-bas à Nevers. Et c'est donc les Sœurs de la Charité de Nevers qui gardent la dépouille de Bernadette Soubirous. Et là-bas, dans le sud-ouest, on aimerait bien récupérer le corps.
Ben d'accord. Ouais, pour la mettre devant la grotte.
Ben oui, devant la grotte, exactement. Ils aimeraient bien exposer le corps devant la grotte.
Ils peuvent en faire un faux, comme un musée Grévin ou un truc comme ça.
Une fausse Bernadette.
Non, il faut qu'ils attendent Bernadette Chirac. Ou alors, ils pourraient quand même... Ils auront peut-être Bernadette Chirac.
Bon, elle n'a pas fait de miracle.
Oh si, oh si, oh si.
Elle a multiplié les pièces jaunes.
C'est vrai qu'elle a multiplié les pièces jaunes.
Oui.
Elle sera peut-être sainte un jour, Bernadette Chirac.
5 centimes.
5 centimes, c'est pas mal.
Elle a fait des choses remarquables. Elle a été une grande dame.
Ah oh, bah oui, puis alors...
Voilà. Les gens de Paris. Oui, mais figurez-vous que moi, je l'ai interrogée, Bernadette.
Ah bon. Laquelle? Soubirous ou...
Et alors, pour lui demander quel a été son premier grand désir.
Ah.
Et son premier grand désir, ça a été d'épouser Jacques Chirac. Elle a été une vraie grande amoureuse. On la voit toujours comme une caricature, mais c'est un cœur sensible.
Non, non, non.
Et quelqu'un de, enfin, en tout cas, de très aimant envers son mari.
Bien sûr. D'ailleurs, Jacques Chirac aimerait bien qu'on lui rende le corps de Bernadette.
À tous ceux qui tentent de résoudre le mystère de la chaussette disparue, un témoin affirme vous avoir vu hier avec deux chaussettes à rayures. Aujourd'hui, aucune trace de la chaussette gauche. J'espère que vous avez un bon alibi. En ce moment, Intermarché offre 80% en avantage carte sur les 38 capsules de lessive Skip Ultimate Trio Active Clean, soit seulement 2,90€ avantage carte déduit. Et ça aussi, c'est dans l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 juillet, 14,50€ prix payé, 806 grammes, soit 17,99€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Mais moi, je trouve, Laurent, qu'il n'y voit pas parité ici, c'est pas encore ça.
Hein. Ah bon, pourquoi?
Parce que nous sommes deux nanas.
Même pas.
Attends, ma chérie dit quelque chose, défends-toi.
Non,
Christine.
J'ai tellement de problèmes en ce moment.
Qu'est-ce que vous avez comme problème?
Qu'est-ce qui se passe encore?
Oh, bah, tu sais, j'ai eu un choc dimanche, parce que depuis 2 ans, j'ai des oiseaux qui s'appellent des diamants de Gould. C'est des oiseaux magnifiques, exotiques, qui ont des couleurs absolument géniales. Et puis, ça fait à peu près 1 an qu'ils couvent tous les deux, qu'ils font le nid, machin. Donc moi, à chaque fois, j'ouvrais, il n'y avait pas d'œufs, je ne comprenais rien. Donc dimanche, je vais au marché aux oiseaux et je dis, pourquoi mes oiseaux, ils couvent, ils pondent pas?
Et là, le mec me demande, montrez-les-moi, et il me dit, c'est deux mecs. Alors,
ça t'explique.
Alors,
t'aurais pu regarder avant de
faire ça au début, non?
Alors, oui, ben, je peux pas. Quand j'ai acheté, on m'a dit, c'est un mec et une nana. Il se bécote, il sautille, il se crame dessus.
Il y en a à Paris, hein.
J'étais sûr que c'était un couple. Alors,
c'était un couple quand même.
Je dis au gars, alors quoi, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, ben, j'en ai des gouldes. Et voilà deux femelles.
Alors, elles font la même chose, dis donc.
Elles sont magnifiques. Me voilà revenu du marché aux oiseaux avec mes deux femelles.
Attends, t'en as quatre.
Je les mets donc les deux femelles avec les deux gars. Bon, dimanche ça se passe bien. Hier je les regarde, tout a l'air d'aller bien. Ce matin, les deux gonzesses sont dans un île et deux mecs dans l'autre.
Ben oui.
Ah, mais c'est la case au folle. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable.
Alors, il y a la guerre en Ukraine qui est peut-être plus épouvantable.
Mais je m'en fous de la guerre en Ukraine. Je veux des oisillons. Et là, eh ben voilà pourquoi ça va pas
et
du
ben,
tout.
Eh ben, fais une fécondation in vitro.
Mais,
il faut que tu arrives à récolter le sperme d'un des deux petits oiseaux. Et après que tu...
Ah, tu t'y connais, toi.
Mais dis-toi, Christine, comment on voit que c'est un mâle ou une femelle?
Eh ben, parce que lui, quand il a vu... les photos, il a tout de suite dit, parce que le dimorphisme du mâle est beaucoup plus prononcé.
C'est-à-dire c'est quoi?
Ça doit avoir des toutes petites couilles quand même. Hein.
C'est quoi le
dimorphisme? C'est les couleurs, c'est-à-dire que le mâle est très coloré, la femelle est plus pastel.
Ah, oui.
Et moi, ça faisait 2 ans, mais ils s'embrassent, ils s'aiment. Quoi, on s'en fout?
Non, on s'en fout. Enfin, je veux dire,
c'est un vrai problème, monsieur.
Oui, pour toi, mais pour les autres, tu...
Oui, les choses n'ont pas beaucoup changé ici, Madame Cordula.
C'est très bien comme ça, je ne suis pas, comme on dit...
Dépaysée.
Voilà. Beaucoup, une première citation pour Valentin Curieux. Monsieur Curieux habite Thiès, en Haute-Savoie, qui a dit « Quand un animateur de télé dit à la fin de son émission « On se retrouve demain à la même heure », c'est très con parce que si vous le retrouvez demain à la même heure, l'émission est déjà terminée. »
Coluche, non.
C'est une femme.
Une femme, non.
Est-ce qu'il était un étranger?
Alors, un étranger, qu'est-ce que
vous avez? Il n'était pas français.
Est-ce qu'il est français?
Un américain.
Alors, pas français, mais francophone.
Ah. Un belge.
Canadien. Légaré.
Légaré.
Pierre Légaré. Bonne réponse. Une citation pour Salomé Ocarise, qui habite l'Orgue dans le Var, qui a dit « Tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. »
Oh, Pascal
Rabelais.
Non, un romancier, un philosophe, un homme de lettres, parfois interdit, parfois emprisonné.
Sade.
Le marquis de Sade. Bonne réponse collective. Pour Marie-Claire Petit, qui habite Vitry-le-François, qui a dit « Étant donné que les jupes raccourcissent et que les décolletés se font de plus en plus bas, il suffit d'attendre que les deux se rejoignent. »
Jean Amadou. Frédéric Dard.
Pas Jean Amadou, mais c'est pas loin.
Maurice Orgue.
Maurice Orgue, non.
Pierre-Jean Vaillard.
Bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que c'est vrai, ça, Mme Cordula?
À un moment donné, oui, elle a raison. Hein.
Vraiment?
Ça va de plus en plus court, plus en plus transparent. Il faut savoir faire pour ne pas vulgariser.
Les seins sont de plus en plus gros, je regarde les télé.
Ah, il y en a du sein plat.
Des gros seins comme ça. Moi, j'ai acheté un écran plat, je suis vraiment con. Ouais.
Non, mais c'est pas tout à fait naturel.
C'est la mode des petits ou des gros seins au Brésil?
Bah, au Brésil, ils aiment bien les grosses fesses.
Les grosses fesses.
Et les seins un peu normales, mais ça commence aussi à mettre un peu de
silicone. Ils aiment les grosses fesses.
On fait aussi pour les hommes, parce que moi, j'ai pas de fesses.
Ah, mais oui, la chirurgie.
Tout pour les hommes. Ils mettent même la
barrette. Je peux vous en donner un peu, Laurent. Je suis prêt à faire une greffe.
Ça a toujours été mon complexe.
Ouais, c'est vrai, t'as pas de fesses.
J'ai le cul plat. Vous aussi, monsieur Berléand.
J'ai le cul plat, je peux le prouver.
Moi aussi, ma.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'ai les fesses plates, je suis pas du tout complexée.
Il y a des caleçons qui te remontent les fesses.
Il y a des jeans et montent fesses, chérie.
Ah oui.
Ah bien sûr.
Ouais, mais faut jamais se déshabiller.
La découpe, elle est comme ça, un peu arrondie derrière. Ah oui, mais bon.
Ouais, sinon, on est déçus.
Je vous peux donner plein d'adresses des chirurgiens esthétiques qui peuvent mettre un paire de fesses.
Oui, il y a des implants de fesses, c'est vrai. Hein.
Ils font même la barrette de chocolat.
Les barres, pas la barrette. La tablette.
La barrette.
C'est le shit, la barrette.
Les tablettes. Je pensais que les barres, c'était la barre.
Non, les barres, mais pas les barrettes.
Non, mais la barre, c'est la barre.
Oui, les la barre.
Les carrés de chocolat.
Les tablettes de chocolat.
Là, c'est la ils font la tablette de chocolat, si vous voulez. Voilà. Des mollets. Il faut ce que vous voulez.
Des mollets.
Et ils s'occupent des noisettes.
Ils enlèvent les graisses. Oui.
Ils peuvent augmenter.
Ils font des botox dans les noisettes.
Ah oui.
Ah, ouais,
ah oui,
ouais,
ça
ouais.
C'est vrai, ça.
Ah oui.
T'imagines? Bah oui, il y a
ils peuvent tout, augmenter la taille du sexe aussi.
Oui, ils peuvent augmenter. Tout est possible.
Est-ce qu'ils peuvent le diminuer?
Ventard.
Vous avez vu qu'Isabelle Huppert a obtenu le César
non,
de la...
Non, celle-là aussi. Oh. Alors que celle-là aussi.
Quoi, on devrait pas,
on pas la montrer.
On devrait pas la montrer dans son état.
Moi, je la trouve formidable, ravissante. Elle a eu un Oscar.
Un César, l'Oscar, elle l'a pas eu.
Un César, comme toujours, parce que c'est quand même celle qui fait les plus tristes, les films les plus tristes du monde. Tu dis, ça va, elle va pleurer encore. Et elle va en Amérique. Et c'est un deuil national. On a l'impression qu'on a perdu 100 contre 10 au basket, quoi. Oh oui, je croisais les doigts. Les deux mecs de Canal Plus, là. Les deux grotesques. Là.
mais personne n'a grâce à vos yeux.
Si, moi.
Alors Isabelle Huppert.
Non, mais c'est vrai que cette cause nationale à défendre, que Isabelle Huppert, qui a eu tout ce qu'on peut avoir, elle fait partie des.
Mais non, c'était son deuxième César seulement, vendredi soir.
Ma mère, combien en a eu? Ça veut dire ça.
Pour le film Elle, que j'ai regardé d'ailleurs ce week-end, ça m'a donné envie de le voir, je ne l'avais encore jamais vu, qui est très réussi. Bon, il y a un peu trop de choses qui arrivent à la même personne dans le même film. Enfin,
elle est violée, non?
Ah, bah non, mais c'est pire
que
ça.
Il n'y a pas de film où elle n'est pas violée.
C'est quand même le réalisateur de Basic Instinct. Hein.
Ah, ouais.
Paul Verhoeven.
Lui, il est beau mec.
Robocop.
Et alors, non, mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que vous mettriez ça dans une pièce de théâtre de boulevard, personne n'y croirait. Parce qu'elle est quand même, alors c'est vrai, elle se fait violer par son voisin.
Oui.
Elle... Oh merde, j'ai spoilé la fin, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était le voisin. C'est dans Lafitte qui est caché sous. Parce qu'en fait, son voisin se met sous une cagoule noire et on ne sait pas qui c'est pendant une partie. Mais à la moitié du film, on sait qui c'est.
Maintenant, il est pas mal, Lafitte.
Oui, mais il n'a pas eu le César du meilleur.
De l'encagoule.
Quand tu joues sous une cagoule, mais c'est dur.
Exactement.
Et en même temps, je crois que tu veux dire ça pour
un. Moi, souvent, je joue tout le film. Comme ça, il y a la faille, mettre une cagoule et il coupe.
Non, mais alors, je crois qu'elle s'est violée par son voisin.
Titoff voulait dire ça pour un petit peu atténuer la peine de la fille. En disant elle a été violée, oui, mais il est pas mal. Mais en général, une femme violée ne...
Non, bien sûr, on va pas...
Ah, mais sauf que dans le film, justement, elle en joue et elle affronte ça sans le dire à personne. Elle va même pas porter plainte parce qu'elle est... mais c'est pour ça que je vous dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut pas penser que ça arrive à une seule personne. Elle est la fille d'un serial killer qui est en prison. Elle se fait violer par son voisin.
Oh là là, ouais.
Elle a un fils qui épouse une jeune femme totalement insupportable.
Son chien est pédé.
Non.
Enfin, tout.
Non, 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 elle accouche, le bébé est noir.
Oh là là.
Alors qu'ils sont blancs tous les deux. Elle couche avec le mari de sa meilleure amie.
Oh.
Mais ça, c'est pas bien pour la meilleure amie. Tout ça dans un même film.
Tout le monde trouve ça normal.
Ah ouais.
Oui.
Bon, alors, il faut quand même dire que c'est adapté d'un roman de Philippe Dian qui avait eu le prix Interallié pour ce roman. Mais contrairement au film, le roman ne s'appelait pas Elle. Et c'est donc ma question pour Alexandra Geffray-Simon de Lanester dans le Morbihan. Comment s'appelait le roman de Dian qui a été adapté donc au cinéma et qui a donné ce film Elle? Bonne réponse de Philippe Gueluc.
J'ai lu dans la presse que c'est Isabelle Huppert qui est allée chercher Dian, qui a monté toute l'affaire.
Absolument.
Qui est allée chercher Verhoeven. C'est-à-dire qu'elle est très entreprenante.
Je me suis un peu moqué de l'histoire du film, mais je vous jure, c'est très réussi. Hein.
On
s'accroche jusqu'à la fin.
C'est un peu...
un peu glauque.
Moi, je trouve le film un petit peu glauque.
Ça commence par le viol.
Ah, ça, il y a que ça. Oui, ça commence par le... Mais il revient plusieurs fois. Oui, hein.
Il veut savoir qu'il
revient
plusieurs
fois. Il revient plusieurs fois.
Quand t'es bien reçu, tu reviens.
mais Pierre a raison. Il est bien reçu.
Et c'est le fils qui tue, d'ailleurs. C'est le fils qui...
Je vous raconte tout. Dis-moi, t'es là pour détraper tous les silences ou pas?
Cela dit, elle est formidable, elle.
Ah ben, elle est formidable.
Elle
s'est choisie un rôle sympathique parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin...
Vous l'avez vu dans La Pianiste? Le cinéma, c'est pas que le film aurait dû être interdit.
c'est pas que les interprètes auraient dû être en prison. C'est pas que les que le metteur en scène et le scénariste surtout auraient dû être condamnés à mort. C'est que le cinéma aurait dû être définitivement clôturé. Éradiqué.
Ah bon? Vous parlez.
Il y avait un film pire que ça au monde avec la avec le petit qui lui.
Oh, non non, c'était pas abominable.
Tu le racontes bien en tout cas.
La valise. La valise RTL va être confiée à Isabelle Mergault, mais puisque c'est la première émission des grosses têtes pour Monsieur Manoff, c'est vous, Monsieur Manoff, qui allez choisir un numéro entre 1 et 20.
Eh bien, je dirais le 7.
Le numéro 7. Et vous allez appeler, chère Isabelle, Monsieur Tanguy Godard, qui habite Grandcourt, en Seine-Maritime. Ça a sonné chez Monsieur Godard. Godard, pardon. Pas Godard, à Grandcourt.
Tanguy, hein.
Tanguy. Tanguy.
Tanguy sur la Normandie.
Tanguy Godard. Il n'y a pas de R.
Allô?
Allô, oh, Tanguy.
Oui.
Tanguy Godard.
Oui.
Ah bon, bonjour.
Oui.
Ça va, Tanguy?
Isabelle Mergault.
Bah oui.
Mais oui. Non.
Mais oui.
Putain, c'est pas possible.
Mais si, c'est vrai, c'est moi, on le sert en fer. Alors là, j'ai pris 6 kilos, hein, mais enfin, j'ai arrêté de fumer en même temps. Mais...
Non, Isabelle, non, vous êtes magnifique, Isabelle.
Et alors, et dites-moi, vous savez pourquoi on vous appelle ou pas?
Pour la valise.
Et j'espère que vous l'avez, franchement. Hein.
Putain, non, je n'ai pas. Oh.
Mais Tanguy! Tanguy, enfin, pourquoi vous vous inscrivez si vous notez pas?
Mais putain, j'ai quoi? J'ai 1 euro.
Bah, arrêtez de traiter Isabelle de putain.
alors, vous l'avez pas, là, la liste?
Non, j'ai quoi? J'ai 1 euro.
Oui, ça c'est vrai, 1 euro, oui.
Ouais, il y a le jeu Gran Turismo sur Télescope.
Oui.
Et ben alors?
Ah, mais j'ai que ça. Après, il n'y a pas un livre. Je sais plus.
Mais vous n'avez pas votre ordinateur?
Il y a trois autres choses encore.
Il y a la liste sur l'ordi.
Bah non, je l'ai pas, là.
Oh là 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 là.
Non, Tanguy, si vous n'êtes pas organisé en même temps.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tanguy?
Je suis intérimaire en usine.
Intérimaire en usine. Ouais. Et aujourd'hui, vous travailliez, vous n'aviez pas sur vous la liste du contenu de la valise RTL.
Non, je ne travaille pas aujourd'hui en plus, mais je n'ai pas la liste.
C'est Philippe Manœuvre qui avait choisi votre nom par hasard en
vous
désignant...
Vous savez qui c'est, Philippe Manœuvre?
Oui, je sais qui c'est.
C'est qui?
Non, en fait, je ne sais pas.
Marc Almond, vous connaissez?
Dites donc, vous, en garde à vue, vous avouez vite. Oui,
on n'a pas mis très longtemps à le point, ça. Il aurait mis 5 minutes pour balancer Jean Moulin.
Oh, mais
ouais, ça, c'est un délire, c'est un délire. Il y a Stevie, Boulek, là, Stevie, vous connaissez?
Ah oui, il y a Stevie. Ah, bien sûr, il est avec vous.
Eh ben, oui. Ah, bah, je t'embrasse, mon Tanguy.
Et t'en sors bien, Tanguy.
Oh, oui. Oh, je... Il y a François Rollin, il y a Bernard Mabille.
Bernard.
Je te roule une pelle, mon Tanguy. Oh.
le bon Laurent Baffy est là aussi.
Ah, monsieur Baffy, j'adore.
Et puis il y a une nouvelle grosse tête aujourd'hui, c'est Philippe Manœuvre. C'est le spécialiste du rock, de la pop un peu moins, hein, on s'en aperçoit.
Ah, oui. On pensait qu'il était spécialiste du rock.
Mais il était dans le jury de la nouvelle star.
Et ben voilà.
Ah, ben voilà, oui. Ben voilà.
Vous voyez, vous avez bien fait de faire cette émission, hein, quand même.
Bon.
C'est qu'il y a une place dans Incroyable Talent, si vous voulez. Elle vient de se libérer.
Il me semble que Philippe est une des voix les plus imitées.
Philippe Manœuvre.
Il est facile à imiter. Moi, je ne sais pas faire, mais.
C'est vrai qu'il a
beaucoup d'imitateurs se régalent.
On devrait tous essayer d'imiter.
La plus belle imitation que je connaisse de Philippe, c'est Thomas VDB qui l'a fait.
Ah ouais, c'est vrai.
En tout cas, c'est perdu. Et vous envoyez une montre RTL, Tanguy.
Ah bah oui, bah j'espère bien, oui.
Ben oui, vous avez. Il y a une Madame Godard.
Oui, j'ai une compagne, oui.
Eh ben, je vais vous envoyer une montre RTL dame aussi, comme ça. Ah. Vous aurez chacun une belle montre à votre poignet, l'un et l'autre. Et puis, puisque vous avez l'air très sympathique et fidèle aux grosses têtes, ça fait combien d'années que vous écoutez les grosses têtes?
Oh, ça fait à peu près 2 ans.
2 ans. C'était au bout de 3 que j'ai envoyé l'almanach.
Oh, non.
2 ans que vous écoutez les grosses têtes. Alors, écoutez, bienvenue sur RTL et je vous envoie l'almanach. Qui vient de sortir.
Oui, c'est gentil. Il n'y a pas Pierre Bénichou aujourd'hui.
Ah non, il n'y a pas Pierre Bénichou aujourd'hui.
J'aurais bien aimé entendre la trompette.
Ah, la trompette, écoutez, peut-être que Monsieur Manœuvre connaît cette œuvre impérissable, la trompette.
La bille peut péter dans le micro.
Sinon, je vais vous faire.
Vous connaissez, vous, la trompette?
Ah bah oui, je la connais pas.
Parce que Philippe Manœuvre, lui, il sait pas ce que c'est. Vous savez pas.
Allez-y, non, allez-y. Qu'est-ce que c'est, la trompette?
Non, parce que pour ça, demain, quand M. Bénichou sera là, puisque vous serez avec Pierre demain,
ouais.
Tous les malheurs n'arrivent pas le même jour. Et donc, on vous a réservé un sas de décompression. Demain, vous serez en même temps Pierre Bénichou. Et forcément, immanquablement, à un moment donné de l'émission, on parlera de la trompette. C'est bien que vous soyez au courant, Philippe.
Ok, ok, d'accord.
Alors, allez-y. Tanguy.
Ah, chérie, je joue moins en la trompette. La trompette. Ta, je suis une trompette en bois.
Bravo. Merci.
Ma question, c'est comment appelle-t-on un personnage qui apparaît de façon fugace dans un film alors qu'on ne l'attendait pas là ?
Un caméo.
Un caméo ! Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Un caméo.
Bien joué.
C'est facile, vous trouvez ?
C'est très à la mode, oui, le caméo.
Ah oui, le caméo.
C'est plutôt des guests qui font ça. Oui, oui.
Ah non, c'est pas pareil.
Non, non, pas pareil.
Guest star, c'est quelqu'un qui participe à
un
film.
Qui a un vrai rôle.
Et qui est au générique. Et qui a un vrai rôle et qui est au générique. Un caméo, c'est quelqu'un que vous reconnaissez.
Bah, c'est Hitchcock.
Voilà, par exemple.
Typiquement Hitchcock.
Exactement, mais pas seulement. Il y a des tas d'exemples de caméos. C'est pas forcément le réalisateur lui-même. Ça peut être, par exemple, tiens, Bukowski qui fait une brève apparition dans le film Barfly de Schroeder. Voilà, parce qu'il a écrit le scénario. Voilà, c'est ça, un caméo. C'est, par exemple, un personnage anachronique aussi.
Le rêve de Pierre Bénichou, dans Turf. Il aurait aimé être caméo, mais il l'a même pas été.
Moi, j'ai été caméo.
T'as été caméo.
Ah ouais, dans Prends ton passe-montagne, on va à la plage.
Je pense que les autres acteurs aussi.
Ah non, mais c'était un film. Non, c'était un film de Max Pécasse.
Ah ouais, on voit
ça sans tromper. À un moment, il y a une sonnette qui sonne dans l'usine et tous les ouvriers claquent en deux secondes, sont en maillot de bain, en machin, enfin. Hein, et je passe au fond avec une.
Mais t'étais figurant.
C'est un peu.
Oui, mais un caméo, c'est quelqu'un de connu qui passe, non? C'est ça?
Ah bah, je suis pas connu.
Nous aurons au téléphone dans un instant Vincent Montgaillard, qu'on connaît bien.
Vincent Montgaillard.
Grand reporter spécialiste de l'aventure au Parisien depuis 10 ans. Et Vincent Montgaillard publie chez Artaud 100 défis mortels à relever. Ou pas d'ailleurs, écrit-il entre parenthèses. 100 défis mortels à relever, c'est un livre assez amusant, mais surtout étonnant. Et parmi...
C'est pour donner des mauvaises idées aux gens, alors c'est
en
ça.
En quelque sorte, c'est surtout pour s'amuser, évidemment, et apprendre ce qui se passe un peu partout dans le monde.
Ouais.
Et là, c'est évidemment en Finlande que je vais vous emmener au championnat du monde organisé en Finlande. Mais quel championnat du monde ? Championnat du monde qui s'appelle le Kokonto. Le Kokonto, c'est en fait une pratique inspirée d'une légende du 19e siècle. Et le Kokonto est une course pendant laquelle les hommes, évidemment, font un parcours de 253 mètres avec deux haies et un bassin. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce parcours. Je signale que les hommes doivent être âgés au minimum de 17 ans et il y a une condition supplémentaire, laquelle ?
Ils portent des menhirs sur le dos ?
Porter des menhirs, non.
Est-ce qu'il y a une condition physique pour les participants ?
Alors, il y a une condition physique, oui, parce qu'il faut faire ce qu'ils arrivent à faire.
Ils portent des petits sacs.
Des petits sacs, non.
Attendez, il y a des haies, j'ai rien compris.
Oui, il y a deux haies.
Ils doivent sauter les haies.
Ils doivent sauter les haies.
Ils portent quelque chose.
Ils portent un casque rempli d'eau, mais qui tient, la courroie tient... à leur sexe.
Où est-ce que vous avez vu ça, Pierre Bénichou ?
Dans la Légion.
Est-ce que...
Bien sûr.
C'est pas dans Koh-Lanta.
On fait des concours. Tu mets le sac lourd et tu vois combien... Il y en a, au bout de 3 litres, pompe, ça tombe. Moi, j'ai fait 7 litres.
Ils portent des sacs à dos, alors.
Non, mais non, pas des sacs à dos.
Non, ils portent quelqu'un sur le dos.
Ils portent quelqu'un sur le dos, mais qui ?
Ils portent un renne sur le dos, un animal.
Non.
Est-ce qu'ils portent quelqu'un de leur famille ?
Oui.
Leur grand-père ?
Non.
Leur grand-père ? Leur mère, leur père.
Quelqu'un de défunt de leur famille ?
Non, quelqu'un de vivant.
Leurs enfants.
Leur femme.
Ils portent leur épouse sur le dos. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Et ce jeu s'appelle le con comme tout.
C'est vraiment un jeu à la con. Hein.
Oh, c'est pas un jeu à la con, c'est le con canto, ça s'appelle.
Bah, le con canto.
Après, ouais. Ça dépend de ta femme. Ça peut être dangereux pour certaines.
Bonjour Vincent Mongaillard. Ça existe encore aujourd'hui, cette course?
Oui, oui, effectivement. Tous les étés, on a le con canto en Finlande, près d'Helsinki. Le con canto, en fait, si, parmi votre équipe, il y avait des bilingues français, finlandais, oui. Tout le monde aurait dit que ça veut dire portée d'épouse. Voilà, ça signifie portée d'épouse. L'épouse peut être la femme du voisin, la maîtresse ou une fiancée. Hein.
Oh, ouais. On peut piquer une femme pour la course si on n'en a pas.
Et elle doit
voilà,
peser.
Il faut qu'elle fasse 49 kilos. Voilà. Si elle fait moins, on va la lester d'un sac de sable.
C'est assez élégant. Et alors, si elle fait plus, forcément, elle ne peut
pas. Et alors, le gagnant emporte le poids en bière de son épouse transportée.
Donc au moins 49 kilos.
Voilà, au minimum de bière. 49 kilos de bière. C'est chouette quand même.
Dans la série Pourquoi Ronsard et pas moi, je me suis inscrit. Mon gaillard, vous savez l'admiration que j'ai pour vous. Vous êtes pour moi l'Albert Londres de la grande presse. Mais pourquoi vous choisissez des sujets comme ça?
Parce que c'est amusant, c'est insolite, évidemment, Vincent Mongaillard. C'est ça qui vous a intéressé.
Moi, monsieur Bénichou, vous êtes le vieux crouton de la presse. À chacun ses compliments et à chacun son ironie.
Vincent Mongaillard, oui, je vais offrir votre livre à Pierre Bénichou quand même.
Oui, il va le brûler.
C'est de l'amour vache, hein, je l'aime beaucoup. Hein.
Ah, je l'aime beaucoup et moi je t'aime pas parce que tu racontes que des conneries sur des trucs qui étaient dignes. C'est le plus grand retour en arrière de la presse dans le monde, ça. Les trucs qui étaient dignes des bonnes soirées ou de l'almanach Vermont. Ah, le mec, il prenait sa femme sur le dos, 44 kilos. Mais enfin, mon pauvre ami, rentre chez toi, démissionne ton téléphone et lis un bouquin.
Mais non, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a 100 défis différents.
Ah, ça doit être pire encore.
Mais il y a quoi d'autre?
Donnez-nous un autre
exemple. Mais M. Bénichou pourra jamais les lire jusqu'au bout parce que ça fait 400 pages et il va s'endormir avant.
Alors là, ce n'est pas tout à fait faux.
Donnez-nous un autre exemple de défi mortel à relever ou pas.
Il y en a 100, donc il y a l'embarras du choix, mais moi je vous citerai le plongeon dans les chutes du Niagara.
Ouais, c'est pas con, oui.
Et là, honneur aux dames, puisque la première à s'être aventurée dans ces chutes incroyables, c'est une institutrice de 63 ans, c'était en 1901, et miracle, elle a survécu.
C'est quoi, c'est combien de hauteur les chutes du Niagara?
45 mètres.
C'est tout quand même.
Ah oui, il ne faut pas louper son plongeon quand même.
Et elle a survécu.
Voilà, elle s'est enfermée dans un tonneau en bois. Elle avait expérimenté la veille avec son chat qui avait survécu. Elle s'en est sortie avec une petite migraine.
Ah
oui, dans un tonneau, j'avais vu ça. Oui.
Alors là, bravo. Là, vraiment. Là, monsieur Montbéliard, je rends les armes. Parce que on vient de nous faire chier avec Marie Curie, avec tout ça, Jeanne d'Arc, et cette bonne femme seule avec son chat.
Oui. Mais moi, j'ai...
Elle se met dans un tonneau. Elle téléphone à Montgaillard, elle lui dit « Demain, 14h, j'ai un truc pour toi. » Elle se jette. Est-ce que je peux y aller?
Bon,
oui, mais par tes propres moyens. Il part avec son vélo. Il arrive là-bas.
Mais qu'est-ce qu'il
fait avec son Kodak? Il photographie. Elle avait 60 ans quand elle lui a proposé le truc. Ouais. Il est arrivé, elle avait 63 ans.
Elle avait fait deux chats.
Bon, avouez qu'il est quand même drôle, notre Jérôme, monsieur Mongaillard.
Mais j'ai pour lui un défi à relever, qui n'est pas dans le livre parce qu'il reste à conquérir, et qui consiste à sauter de 7600 mètres d'altitude sans parachute. C'est un Américain qui va tenter ça. Il va atterrir en principe dans un filet de décélération. Mais avec un peu de chance, on peut imaginer que M. Bénichou vise mal facile.
Vous souhaitez quand même pas la mort de Pierre Bénichou, M. Mongaillard?
Non, évidemment que non. Mongaillard.
Qu'est-ce que vous faites?
Je l'invite à manger une blanquette de veau.
Oui. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle?
Après votre show, bah écoutez, on peut se rencontrer et boire un bon verre de vin en amoureux.
Et voilà comment on finit par se faire bourrer.
Si je l'avais pris dans l'œil, j'étais borgne. Mais de quoi s'agit-il?
J'ai bien parlé.
C'est un monsieur très connu.
Non, c'est pas monsieur connu, c'est un périgourdin de 70 ans qui effectivement a pris entre les deux yeux quelque chose qui a quand même cassé ses lunettes. Hein, voyez,
un corbeau, un corbeau.
Un corbeau, non. Vous avez dit
une balle.
Une balle, oui, mais quelle balle?
Une balle de tennis.
De tennis.
Non, de golf.
De ping-pong.
Une balle de golf. Bonne réponse d'Isabelle Mergault. Le pauvre monsieur se promenait le long du golfe de Périgueux en Dordogne. Et
Ça me fait très peur, moi.
Ah oui.
Les gens qui vont à l'hôtel du golfe en Normandie, à Deauville.
Ça me fait très peur. Non, mais vous êtes vraiment mais paranoïaque.
Et ça, c'est le
Deauville. À Deauville, elle ne parle que Deauville.
Non, je ne comprends pas.
Un mec qui lance bien une balle de golf.
Excusez-moi, il peut vous défoncer la gueule. Moi, je connais une petite fille de 5 ans qui s'est fait détruire la tronche par une boule de pétanque.
Ah bah oui.
On joue rarement au golf avec des boules de pétanque.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Tu joues pas à la pétanque à Deauville.
Parle sans crainte. Non, si tu peux avoir peur en te promenant dans la forêt de te faire tirer par un chasseur, oui.
Mais parce que ça arrive. Tu te fais tirer par un chasseur, il n'y a pas besoin d'être dans une forêt. Je n'en connais pas de chasseur.
T'approches pas de ma péniche parce que j'ai un flashball. Là, tu risques quelque chose.
Non, mais écoutez, quand même, là, c'est vraiment. Je sais que vous êtes inquiète.
Non, c'est pas de chance.
Parce que j'ai quand même, évidemment, eu la chance de recevoir Caroline Diamant à quelques reprises chez moi. Et alors, là, le soir, elle vous demande si vous avez bien fermé la porte, par exemple.
Non.
Ah, si, si, je vous jure.
Je voulais qu'il ferme ma clé la nuit. C'est pas honteux.
Non, mais c'est pas honteux. Puis en plus, je t'assure, tu l'as, dans les années Europa, il avait invité tous ses potes et il y avait un mec qui s'appelait Gros Boudin. Et qui a essayé de violer tout le monde.
C'était en Toscane.
Oui.
Et je me souviens, il y avait Gérard Miller avec nous. Et Gérard Miller avait dit maison de PD, je ferme ma clé.
Et le mec, Gros Boudin, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'il voulait sauter sur tout le monde en disant tu veux mon Gros Boudin.
Alors, il ne savait pas bien parler, il était italien, il ne savait pas bien parler français. Oui, bah, mais... Alors il disait Gros Boudin pour son sexe. Voilà.
Ah oui, on avait compris. Et alors, tu t'imagines le danger chez lui, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, le danger.
Pas du tout, il venait de l'extérieur, on était allé en discothèque, chacun avait ramené, on va dire, un garçon ou une fille.
Oui, quelque chose de local.
Voilà, voilà des souvenirs locaux. Et c'est vrai que Gros Boudin, j'étais un peu surpris, une fois que c'était terminé entre nous, il a dit, je peux aller dans les autres chambres. On est en sécurité chez moi.
Ah, oui, mais je ne dis pas le contraire, je dis juste, il faut prendre des précautions.
Enfin, quand même de là avoir peur qu'une balle de golf vous arrive dans l'œil, Caroline Diamant, franchement, il y a une
mais
chance.
Ce monsieur a failli perdre la vue d'un œil.
Oui, mais ça arrive très rarement.
Et bien, quand ça vous arrive, excusez-moi, le côté ça arrive rarement, ça vous fait une belle guibole. Quoi, lui ou pas.
Tu vas pas au bowling non plus, alors.
Et bien, moi, je suis désolée, je ne suis jamais allée au cirque.
À cause des jongleurs.
Que les pauvres nous bouffent. Et bien, c'est déjà arrivé.
Ah, c'est héréditaire.
Bien sûr que l'anxiété, c'est héréditaire.
Le cirque, quand même.
Et j'avais pas loin de voir Peter Pan parce qu'elle avait peur qu'on ouvre la fenêtre et qu'on essaye de voler comme lui.
Mais c'est intelligent, cet anxiété.
Dans un taxi aussi, vous avez peur dans un taxi, faites attention aussi.
Non, alors non, j'ai peur des bonbons dans les Uber, parce que je me dis si je devais assassiner, faire un mass murder, je mettrais du poison dans les bonbons des Uber.
Vraiment.
Ça ne pas donner des idées. Excusez-moi d'avoir un peu de...
Non, t'es franchement paranoïaque.
Vous arrêtez de regarder Jean-Marc Morandini et toutes ses émissions.
Il doit avoir une vie épouvantable.
Mais c'est vrai que je regarde beaucoup Esprit criminel, tous ces trucs-là. J'aurais voulu peut-être être profiler au FBI.
Pas trop tard.
Mais rentrer dans le cerveau d'un serial killer...
Oh bah quand on a un QI de 130, c'est évident.
Mais c'est pour ça que t'as peur de tout. Parce que t'es une psychopathe, en fait. Et donc, effectivement...
Alors, se faire traiter de psychopathe par toi, tu veux que je te dise, c'est un climax dans ma vie.
Ça fait une demi-heure que je ne comprends rien.
Baissez la tête, Bernard, parce qu'il y a une balle de golf qui peut arriver. Question qui va vous parler d'une femme qui s'appelait Gerda Taro. Gerda Taro a été écrasée par un char républicain près de Madrid en 1937. Et on doit à cette femme le célèbre pseudonyme de son mari. Mais qui était son mari ?
Picasso?
Picasso, non.
Franco?
Franco, non.
Picabia?
Non.
Il est espagnol?
Ah non, pas du tout.
Ah, voilà.
Ah oui. Il était français?
Ah, il n'était pas français.
Américain.
Allemand non plus. Non.
Anglais.
Écoutez, là, cherchez pas le pays, on va pas s'en sortir.
Ah bon.
Il a été de toute façon ensuite naturalisé américain.
Il est devenu américain.
De Transnistrie.
Il est devenu américain, mais vous trouverez.
C'était un peintre, un poète.
Peintre non, poète non.
Un sculpteur.
Un écrivain. Et en tout cas, c'est sa compagne Gerda Tarot, qui elle était allemande d'origine. Ils se sont rencontrés quand elle était étudiante. C'est elle qui lui a conseillé de changer de nom et de prendre ce célèbre nom qu'on connaît tous aujourd'hui.
Charlie Chaplin.
Avant qu'elle se fasse elle-même écrasée par un char républicain près de Madrid le 26 juin 1937.
Il est un acteur de cinéma.
Un acteur de cinéma, non.
Gerda Tarot, Jean-Michel Belotte.
Hemingway,
non.
Est-ce qu'il est devenu artiste?
Artiste, on peut dire.
Photographe?
Photographe, oui.
Alors,
Capa. Robert Capa. Bonne réponse de Florian Gazan. Robert Capa.
J'avais dit Capa.
Et oui, Robert Capa ne s'appelait pas Robert Capa, célèbre photographe de guerre, correspondant de guerre hongrois d'origine, et naturalisé américain, et au départ, il s'appelait André Friedman, et puis il a pris ce pseudonyme Robert Capra sur conseil de sa compagne
En 40 c'était mieux,
qui lui a dit que ses photos se vendaient très mal et qu'il fallait prendre un pseudonyme, que Robert Capa ça sonnait plus américain et que c'était plus facile à prononcer, et donc ils ont inventé tout un personnage autour du pseudo Capa, et effectivement Capa ça vient de Frank Capra, c'est pour ça qu'il a choisi ce nom.
À l'époque je me serais fait appeler comment alors? Eric Sigmund.
Non, c'est Dieu, pas Sigmund.
Sigmund non plus.
Ah ouais.
Dieu donné.
Ah oui.
Mais ce qui est fou, c'est que cette jeune femme qui quand même lui a donné son pseudo, ce célèbre nom que tout le monde connaît aujourd'hui et qui a donné son nom à l'agence Capa aussi par la suite évidemment, celle qui lui a donné ce nom de Robert Capa, effectivement s'est fait écraser par un char républicain en Espagne lors des combats de la bataille de Brunete. Elle est morte le 26 juin 1937 et lui il est mort en 54 au Tonkin, c'est au nord du Vietnam actuel, où se trouve Hanoï, au Tonkin, le 25 mai 54, Robert Capa, effectivement, il veut prendre une photo d'ensemble d'un groupe de soldats français, il s'écarte du chemin où progresse la troupe et il met le pied sur une mine antipersonnelle.
Et il dit, il est pas un peu violent ce flash? Laurent, vous dites le 25 mai 54.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est-à-dire 17 jours après la chute de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu.
Que tu peux pas mourir en marchant sur un certain bruit.
Non, mais c'est étonnant.
Non, mais c'est une histoire terrible quand même. Elle, sa compagne quand même, bon, alors 20 ans avant presque, mais elle meurt écrasée par un char et lui meurt explosé sur une mine antipersonnelle. C'est quand même des destins.
Drôle de famille.
Absolument hallucinant, et vous retiendrez ainsi le nom de Robert Capa et de sa compagne Gerda Tarot. Je vous en parle d'ailleurs parce qu'il y a une bande dessinée signée Florence Silvray qui sort, une bande dessinée qui raconte l'histoire de Capa, l'étoile filante. C'est aux éditions Casterman, excellent éditeur, n'est-ce pas, Philippe Gueluc?
Le meilleur, Laurent.
C'est une histoire qui mérite d'être racontée.
C'est vrai.
Et pourquoi pas en bande dessinée? Maintenant, on raconte tout en bande dessinée. Hein. Tout est devenu une mode, ça, il faut dire.
Oui, c'est comme si c'était quelque chose de plus accessible. Alors, je ne le pense pas, parce qu'il y a des bandes dessinées très chiantes.
Ah non, on avait fait des bandes dessinées sur les petites annonces. C'était très drôle.
Ah, c'est vrai? Ouais, avec vous, dessinées, croquées, oui, caricaturées,
Franck et moi. Et il reprenait certaines petites annonces et il les mettait en...
Hein, ça marchait bien.
Oui, ça s'est vendu.
Ah, ouais.
Il y a aussi une version sur YouPorn et les acteurs sont très bien, les petites annonces.
Mais qu'est-ce qu'il raconte?
C'est n'importe quoi.
Franchement, il est moins drôle qu'avant, vous donnez. Une citation pour Christophe Béhin, qui habite Mérigny dans le Nord, qui a dit « Les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux,
avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne.
Luis Mariano.
Non.
Linda Souza.
Oh non.
Volinsky.
Non, non. Oh, c'est signé, ça, normalement.
Cavana.
Pierre Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse. Bravo, Titoff. Mais oui, c'est du Pierre Desproges.
Mais oui.
Une autre citation, plus difficile, celle-ci, parce qu'on le cite plus rarement aux grosses têtes, et ce sera pour Nadine Marché, qui habite Montsoreau, en Maine-et-Loire, qui a dit « L'expérience est un peigne pour les chauves.
» Ah, c'est joli, ça.
Hein, très joli.
Ouais, c'est, pas, c'est pas Gueluc, en tout cas. Ah,
l'expérience, c'est un peigne pour les chauves.
C'est un Français ?
C'est un Français. Chauve lui-même, d'ailleurs, aujourd'hui, aussi chauve que son père l'était presque.
Donc il est toujours avec nous.
Oui.
Le père aussi.
Son père était connu.
Le père, non. Le père était peut-être plus connu que le fils. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse.
Il est écrivain.
Le père...
C'est Guy Bedos.
Non, Guy Bedos.
Non, non, celui qui a dit ça, il est...
Bah, ils sont chauves ni l'un ni l'autre.
Ouais. Le fils.
Pascal Obispo.
Non, le fils, il est...
Vous connaissez le père de Pascal Obispo?
Raymond Obispo, ouais. Absolument. Il a eu son ordre de gloire.
Obispo, il s'appelle.
Mais de tout.
Ah, Cassel.
Pardon.
Cassel.
Ah voilà, ça c'est bien, Vincent Cassel.
Ils sont pas chauves. Pas chauves.
Ils n'étaient chauves ni l'un ni l'autre.
Non, mais lui, aujourd'hui, il est écrivain?
Alors lui, il est auteur, en tout cas, pas seulement, mais écrivain aussi. Il publie parfois.
Il écrit des chansons?
Oui, des chansons, non.
Bertrand Blier.
Bertrand Blier. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation maintenant pour Luc Kommerschlack, qui habite Malestroit, c'est dans le Morbihan, qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ».
Ah oui, Woody Allen.
Woody Allen, non. Non.
Oh merde.
Un français.
Français.
C'est un écrivain, mais qui n'était pas français, non.
Belge.
Belge, non.
C'est long. Américain, anglais.
Je connais ça.
Alors un écrivain de langue allemande, mais qui n'était pas allemand.
De l'Angleterre.
Ah, autrichien, alors.
Suisse.
Alors, effectivement, Autriche-Hongrie à l'époque.
Franz Kafka.
Kafka. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Quand il ne va pas faire pipi, il dit Kafka.
Non, monsieur Gueluc. Ah, j'ai une très jolie citation qui va plaire à Muriel Robin, et ce sera pour Amélie Jandot, qui habite Chénas dans le Rhône, qui a dit « J'ai passé un an à Saint-Étienne, c'était un dimanche. »
Ah, c'est joli ça. C'est un entraîneur de foot.
Non.
Allez, bien. Bien.
C'est Vincent Dedienne.
C'est une femme.
Ah, pas Vincent Dedienne, non, c'est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui.
Ah,
c'est Raymond Devos.
Et il avait le sens de la formule.
Ah, Jacques Martin.
Et c'est Jacques Martin. Ah. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et là, ce sera peut-être plus difficile, parce que c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. J'espère donc que, tiens, je vous aide, j'espère donc que vous la connaissez, car il s'agit d'une femme.
Ma belle-sœur.
Et ce sera pour Gilles Alain, qui habite le Valois-Perret, rien à voir avec votre belle-sœur. Quelle femme a donc dit « La fortune ne vient pas en dormant, seule ».
Oh. Ah, Zaza Gabor.
Non.
C'est une actrice.
Alors, elle était actrice, chanteuse, danseuse surtout.
Française.
Française. Alors, elle a chanté et dansé en France, mais elle était née en Espagne.
Oh. Elle est décédée.
Elle est décédée. Elle est morte à Nice en 1965.
Ah, elle est morte jeune.
Oh, elle est morte, elle avait, alors je vais faire le calcul, hein, elle est née en 1868. Elle est morte quasi centenaire.
Ah oui, en effet, oui.
Elle a joué dans des films américains.
Non, elle a joué dans...
La Belle au Zéro.
Et c'est La Belle au Zéro. Bonne réponse de Pierre Bénichou, qui fait un finish incroyable.
Ah, allez.
Kafka, La Belle au Zéro. On l'appelait Caroline, enfin c'était son nom d'ailleurs. D'ailleurs, c'était pas tout à fait son nom, puisque La Belle Otero, son surnom c'était la Caroline Otero, mais son vrai nom c'était Agustina Otero Iglesias. Elle s'appelait Iglesias.
Oh là là, mais toi non plus tu n'as pas changé. Tu es toujours ce parfum léché.
Vous aimez Rulio?
J'adore, j'adore.
Vous aussi, Muriel?
J'adore Rulio. On a eu des frissons avec Rulio.
Bon, en tout cas, voilà pour La Belle Otero. C'est bien de temps en temps de rappeler les noms de ces jeunes femmes qui étaient non seulement...
On n'en parle pas, c'est bon.
Non.
Oui.
Tu n'as pas le droit de faire la gueule. Tu n'as pas le droit de faire la gueule.
Ah, mais tu rigoles encore. Moi, j'aime trop. Non, mais La Belle Otero, elle pourrait faire la pub pour Gamvin.
Ah oui, Otero, oui, bien sûr.
Oh là là.
Non mais il en faut une comme ça. Moi, c'est pas du tout jeu de mots. Non. Il y a toujours quelqu'un qui aime les jeux de mots. Il faut qu'il y en ait une qui le fasse. Mais écoute, je le fais.
Elle a même pas fait un film avec Truffaut.
Otero, non.